Apéro spécial, deuxième partie de saison.
Ah, moi Simon.
Ça va, mon pasteur.
Ah,
t'es bien rentré?
Oui, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Reprise de la NBA ce soir. Ouah, il s'en est passé 2-3 choses ces derniers jours.
Ouais.
Entre le All-Star Game à Los Angeles, on s'est régalé comme des petits fous. Merci à Victor d'avoir donné la vibe. Merci Anthony Edwards, merci Kawhi Leonard. On a parlé déjà de pas mal de
merci
choses.
Merci Jokic. Ah non, ça marche pas pour moi.
Merci Jokic et Luka.
Ouais. Ça s'est vu, hein.
Ça s'est vu fort. On a vu aussi plein des choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux parce que c'est parti en freestyle dans tous les sens. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, on va faire un apéro pour remettre une pièce dans la machine car ce soir, retour sur les parquets et donc vive les stats, les victoires, les défaites et ce virage dernier de saison régulière qui est toujours très important, mon Simon, parce que la dynamique, les équipes qui finissent bien, souvent, les playoffs, on les retrouve fortes.
Ouais, bah, y a, moi... presque plus qu'une fin de saison, je trouve que c'est le vrai début de la saison. C'est le vrai moment où ça compte.
Oui.
En plus, c'est bien fait aux États-Unis. Le All-Star Game est passé, la NFL est finie, les effectifs a priori sont faits, les histoires de contrats, d'agents, de thunes, c'est comme pour dire, clairement, c'est fait, c'est réglé, parce qu'il y a encore des, on l'a vu, il y a encore des gros traits, des vestiaires et tout. La façon de jouer des équipes normalement est identifiée, leur niveau et leurs ambitions.
Tout à fait. Donc normalement, on sait qui est quoi. On a fait les derniers moves à la deadline. Et là, on rentre dans les 30 derniers matchs pour essayer d'être bien.
Ouais.
Et donc, ce qu'on voulait vous proposer, c'était un petit apéro avec, comme vous avez pu le voir, le titre suivant. Qui a le plus de chances de battre le Thunder? On va tout vous expliquer, mais en gros, c'est très très simple. Je parlais avec Simon en off en lui disant « Hey, t'es chaud, viens, si t'es dispo, on se fait un petit apéro. » Alex, à qui on envoie des bisous, prend des jolies vacances bien méritées pour cette saison de MVP puisqu'il est sur les stats de Will Chamberlain 1962, le Alexinator. Et donc... je te proposais le concept suivant et je vous le présente. On a aujourd'hui ce dernier virage qui démarre. Le Thunder est champion en titre et on va les présenter rapidement. Mais même s'il y a eu un démarrage historique et là une suite un peu plus shaky, on va en parler. Ça reste le champion en titre avec toutes les armes pour faire un doublé.
Tout à fait.
Et donc c'est intéressant aujourd'hui de se poser la question suivante. Qui est réellement en position pour pouvoir les battre en playoff, éviter un quoi, 9e non back-to-back de suite, je crois bientôt, on va être Warriors 2018. Donc après, on a eu...
C'est ça, des années.
Et en plus, parce que j'ai le sentiment, et je sais pas toi...
C'est vrai qu'on est quasiment une décennie de champions uniques.
C'est rarissime.
Ouais, c'est... Oui, bah oui, surtout qu'il y avait des... les années 70, quoi, qui est un peu comme ça.
C'est ça, les années 70. Et donc, la première question que j'allais te poser, Simon, avant qu'on rentre dans le débat, c'est que quand on est en début décembre, mi-décembre, t'as l'impression qu'il y a le Thunder et puis après bravo à celui qui va être un peu second. Et là depuis quelques semaines avec tout ce qui se passe, est-ce que t'as le sentiment toi que c'est un peu plus flat ou est-ce que tu donnes encore une marge au Thunder parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que le Thunder est plus prenable que ce qu'on pense?
Non, moi j'ai l'impression que ça va être plus serré que ce qu'on aurait pu penser il y a deux mois. Même s'il y a deux mois, fallait déjà bien faire le distinguo. La saison régulière c'est une chose.
Oui.
Même si quand en général t'en gagnes 70 parce que c'était parti pour et on verra combien ils finissent et tout. Tu te retrouves normalement au minimum en finale et tout, mais c'est une chose et c'est pas. On l'a vu l'an dernier, tu vois, ils font quand même une grosse régulière. 7 matchs contre Denver, 7 matchs contre Indiana, tu vois, c'est autre chose les playoffs. Mais c'est vrai que là, sans vouloir en plus dévoiler le reste de la vidéo, mais entre temps, il y a eu certaines défaites, dont certaines défaites par exemple contre une même équipe. Et puis il y a surtout d'autres équipes où au début, on pouvait se dire, même dans la conférence opposée, à l'Est par exemple, des équipes, on se dit. Oui, c'est une sensation de position qui se montre très solide. Je pense par exemple aux Pistons, par exemple, qui montre quelque chose de vraiment cohérent, solide et tout. Où la vidéo, là, tombe à point parce que OKC est toujours le favori, je pense.
Oui.
Et le champion en titre, il faut les respecter. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes, je pense, capables de les cogner en playoff.
C'est ça. C'est en partant de ce postulat qu'on s'est dit on va faire un espèce de petit jeu et on va vous y inviter. On a fait trois espèces de catégories, vous le savez avec Simon, à chaque fois on joue, on utilise plein de méthodes postulatives. On est joueur et puis de toute façon Simon il m'a dit tiens regarde j'ai créé même des catégories avec des noms particuliers. Et donc on s'est dit qu'on allait faire trois catégories. On va avoir la première qui est vraiment le l'alignement des planètes, faut vraiment il y a quoi 0,1% de chance.
Ouais, moi j'appelle ça le 0,1%.
Le 0,1%.
0,1%, c'est il faut vraiment que les astres et les dieux du basket fassent. Même pour eux, ça va être compliqué, mais tu vois, aligne tout. Et OK, sur un milliard de mondes possibles, il y en a un où cette équipe peut battre OKC.
Donc, ça, c'est la première catégorie. On va pouvoir faire un fourre-tout, mais il y en aura quelques-unes.
Ouais, il y a 3-4 équipes là-dedans, 2-3.
Là où on passe à la catégorie suivante, c'est plus, tu me disais, dans des pourcentages, on est plus à 25%, qu'on se dit, ah, il y a un chemin.
S'il fallait mettre 1%. Ouais, moi j'appellerais ça genre, bon, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Il y a un chemin.
C'est pas délirant comme l'alignement des planètes, c'est, voilà, c'est... En cas de confrontation en playoff, il serait pas favori, mais tu dis quand même, c'est pas du tout cuit
c'est ça.
Pour Oklahoma, voilà.
Et donc on aurait l'occasion pour ces équipes-là de dire qu'est-ce qui nous retient en fait. Ouais.
Et
qu'est-ce
notamment pourquoi on les met pas
dans le
en dessous.
Ou voire en dessous tout à fait, mais qu'est-ce qui nous rassure exactement et qu'est-ce qui nous fait flipper parce qu'il y a certains éléments qu'on n'aime pas trop. Et puis enfin la catégorie reine. Et à savoir combien vous avez d'équipes dans la catégorie reine où là vraiment on est plus du proche du 50%, c'est-à-dire là la série elle démarre, on discute.
Ouais. Moi j'appellerais ça le 49% parce qu'OKC serait quand même favori et champion titre, tu vois.
C'est ça, très beau.
Mais c'est 49-3 je crois. 49-3% la stat exacte. Mais pardon.
Elle est très
mais ouais,
belle.
Là c'est plus c'est jouable.
C'est ça, c'est
plus
jouable.
Que c'est possible, c'est jouable. T'as vraiment. Et au petit jeu des pronos, tu sais comme ils font les experts, la ESPN, avec... c'est pas farfelu qu'il y ait quelques mecs, voire quasi, qui te disent bah non, en fait, telle équipe va taper OKC en playoff là.
C'est ça. Et donc forcément, on a hâte d'avoir vous vos avis. Et donc, quelles équipes sont dans ces catégories ? C'est-à-dire que peut-être que pour certains, il y a 5 équipes qui peuvent être dans le 50%. Peut-être qu'il y en a qui vont en mettre que 2 à l'heure actuelle. Ouais. Est-ce que t'es chaud ou est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux mettre en avant avant qu'on démarre ?
Non. Comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est combien on en a par catégorie et dans quel ordre après.
Eh oui. Bah bien sûr. Parce que du coup, on va pas juste mettre des groupes comme ça. Sachez qu'à la fin, quand on va faire justement l'équipe des 50%, on va voir qui est l'équipe qui, selon nous, a le plus de chances de pouvoir battre le Thunder et répondre à cette grande question.
Non, j'ai hâte de voir déjà si on a les mêmes équipes dans les mêmes catégories et surtout après, parce que ça, je pense quand même global. Mais l'ordre, c'est là où ça va charcuter.
Ouais. Et donc, avant même qu'on commence, sachez-le, vous pouvez tout de suite craquer vos doigts, partir sur vos claviers et nous dire évidemment qui, selon vous, est l'équipe la plus capable de battre ce Thunder en playoff et donc derrière aller essayer de chercher le titre parce que tu peux aller battre au premier, deuxième ou troisième tour en finale NBA et ça change bien les choses. Dernier appel évidemment, là c'est un point effectué le soir de la reprise. Mon cher Simon, dans 6 semaines, on se fait l'apéro science-fiction.
Ah oui, c'est vrai, putain, 6 semaines déjà, ça va venir vite. Ouais, le fameux Christopher Nolan, moi comme je l'appelle.
Exactement.
Où
là,
le
ça
truc
part
de
dans
3 heures où il y a des toupies qui tournent et des rêves dans des rêves.
L'apéro préféré des gens chaque saison et où là, je sais que ça part sur de la bonne sci-fi. Mais on aura l'occasion de le faire. Donc intéressant aussi, moi j'ai hâte de voir si dans 6 semaines, on aura les mêmes groupes que ceux qu'on a envie de
faire. Ça bouge vite. Et puis ça peut être une blessure, un truc. Au moins, par contre, ce qui est bien, la trade deadline est faite, les effectifs sont 7. Sont réglés, ça normalement.
Sauf les derniers
buy-out.
Voilà.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas des masses de candidats de ouf au buy-out là.
Les gens réalisent que les joueurs de buy-out qui ont vraiment fait des impacts énormes en NBA, ça se compte sur les doigts d'une main.
Ouais, Boris Dio.
Ouais.
C'est un buy-out, je crois, quand il est Bobcat Spurs. Je te jure,
ouais.
Bah ouais.
Putain, faudrait que je revoie.
Je crois que c'est un buy-out. Genre trop gros au Bobcats, buy-out, il va au Spurs. Et je sais même, tu vois là, comme ça. Kevin Love. À Miami, quand ils vont en finale avec Butler, je crois que c'est un buy-out de je sais plus quoi.
Ouais, ou Lowry, ou un truc comme ça aussi. Ou Dragic.
Et il y a. Ouais, Joe Johnson, je sais plus où ils
sont. Il y en a 2-3,
Utah. Quand ça... Ouais, bah, oh. Ce serait presque un top 10 meilleur buy-out. Mais il faudrait faire des archives. Là,
Le top 10 obscur, mais je vais le noter.
Et
bien évidemment, souvenez-vous de l'année dernière, c'est-à-dire qu'au moment où on faisait cet apéro il y a un an, qui aurait pu annoncer que les Pacers seraient dans le podium tout en haut, c'est-à-dire équipe capable d'aller titiller un titre de champion NBA. Tout est ouvert.
C'est vrai que, pour finir, on aurait fait ça, je pense que les Pacers, est-ce qu'on les aurait même mis dans Il y a un monde ? Je suis même pas sûr.
Trop compliqué.
Et il y a eu un monde où ils sont à une blessure d'Haliburton.
Un alignement de planète. De pouvoir être champion NBA.
Tu vois, ça fait réfléchir les Pacers de l'an dernier. Ça fait réfléchir.
Okay. Tu as une tablette ?
J'ai une tablette.
J'en ai une aussi. On va pouvoir démarrer par une première catégorie qui sont donc, comme on l'a dit, les 0-1%, c'est-à-dire, eux, franchement... Pour aller chercher le titre, il faut un alignement de fou. Alors là, tu n'es pas obligé de mettre le numéro de position de ces équipes. Là, tu peux vraiment les mettre comme tu veux. C'est-à-dire, tu en as combien, par exemple, toi, dans cette catégorie ?
2,5. 2,3.
Allez, on va se permettre. Moi, je vais en mettre pour le moment 2.
D'accord.
Et hâte de discuter et voir. Allez, tu sais quoi, je vais mettre même une troisième, juste pour le jeu. Mais parce que vraiment, malheureusement, je ne les sens pas aussi bien que ça avait été le cas sur le début de saison. Oh là là ! Ta 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 ta. Je sens que déjà on va pas être d'accord. Et on va être sur les
0%. Ce que j'ai fait.
Moi, je vais tout simplement révéler les trois. Sur okay. le 0-1%, attention, j'ai les Celtics,
ah ouais.
les Lakers et les Rockets. Et toi, tu nous as mis...
Putain, on n'a pas les trois du tout.
Ah ouais, ouais. Toi, t'as mis les Clippers,
moi, j'étais vraiment dans le 0-1.
Les Sixers, oh, les Cavs.
Et les Cavs, entre parenthèses, parce okay. que cas particulier.
Alors vas-y, explique-moi pourquoi cas particulier. Alors, les Cavs.
On commence par ça. Bah, parce qu'en fait, c'est une vraie nouvelle équipe.
Ouais.
Donc, j'ai pas assez vu... J'ai tendance naturellement à dire qu'il y a 0%, mais peut-être qu'il y a un 0-1% si ça se passe vraiment très bien et que ça clique et qu'en fait ils sortent en finale. Oui. Parce qu'après, on l'a vu avec Indiana, ben, t'es en finale contre Casey. Si la bataille à l'ouest a été très rude et que, je sais pas, Chet il s'est fait je sais pas quoi au machin, bah en fait il y a un monde
ouais, bien sûr.
Qui s'ouvre et qui peut même être d'un coup les Cavs si ça se passe bien. C'est pour ça que c'est un cas particulier. Ils pourraient presque même être dans une catégorie un poil au-dessus. Presque. Voilà.
C'est ça où je voulais. En fait, c'est marrant que tu mettes les cases parce
mais
que
pour l'instant, j'ai du mal à y croire vraiment, quoi.
C'est cet élément de nouveauté, toi, qui te retient un petit peu de croire en ces caves. C'est le fait que ce soit aussi neuf là avec Harden et ce groupe.
C'est à la
où
fois.
Il y a d'autres choses.
Bah, c'est quand même le passif d'Harden en playoff. C'est le passif des caves, de ces caves là qui ont globalement de choke. Ça fait 2-3 saisons. Mm-hmm. Deux. Et puis que, en fait, c'est bête, mais je les vois pas forcément sortir de l'Est. Donc du coup, je les vois pas. Il y a aussi le problème entre Est et Ouest. Il y a un peu une dichotomie dans ce qu'on fait parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup plus de chances de croiser la route d'Oklahoma. Mmh. Et puis il y en a, bah en fait, les équipes de l'Est. Faut déjà qu'elles aient en finale. Donc le sous-entendu, c'est pas du tout mes favoris pour sortir de l'Est. Tu vois, Cleveland. Donc ça baisserait
oui,
leur pourcentage par rapport à des équipes de l'Ouest.
Et là, quand tu mets Sixers par exemple sur la même tablette, c'est parce que il y a ce côté un peu. On avait parlé avec Alex, Philly, pour les sortir en 7, t'as l'impression qu'il y a un chemin dans lequel ils peuvent faire des dingueries. Mais si t'avais une série Sixers Cavs,
bah c'est ça. Ça dépend d'Embiid. Bon, Paul George, c'est un cas particulier, il est suspendu et tout. Mais tu sais qu'Embiid là, 70% de ce qu'il a montré, plus Maxi, plus Escombe avec le public, bah tu te dis qu'en fait, Philly peut les pousser dans leur retranchement, je pense, les Cavs.
Il y a beaucoup de gens qui les ont en Dark Horse.
Ouais, c'est Dark Horse. C'est pour ça que moi, c'est un 0-1, il y a un monde. C'est-à-dire que vraiment, tu jettes, même pas 100 fois, tu jettes 100 000 fois les dés.
Ouais.
Je veux bien croire qu'il y a une proba où les Sixers gagnent le titre et donc ça sous-entend qu'ils ont battu Oklahoma.
Oui, je vois.
Je veux bien l'entendre.
Ok.
Les Clippers, en fait, je les mets dans le même sac.
Ouais.
Mais avec un tout petit peu plus, c'est pour ça qu'ils sont premiers entre guillemets de mon 0-1% parce qu'ils sont à l'ouest et qu'il y a un monde où bah en fait c'est le premier tour. Mm-hmm. Ils sortent du play-in super dynamique et tout. Et en fait, pendant 15 jours là, comme on l'a vu au Slam, Kawhi c'est genre Michael Jordan cross, oui. Scottie Pippen cross, je sais pas quoi. Oklahoma a du mal, ça choke, ça machin, ça vite. Et en fait, les Clippers ils te gagnent la série quoi.
Je vois.
Mais c'est pas la finale, c'est le premier tour.
Comprends. Qu'est-ce qui t'a choqué quand t'as vu là moi ma tablette avec Celtics, Lakers et Rockets?
Celtics pour moi ça vient plus tard.
Ok.
Et voilà. C'est un peu plus haut que 0-1%. Ouais. Mais je vais m'expliquer plus tard. Et Celtics et Lakers et Rockets, bah honnêtement, je les ai un peu plus en 0%.
Ah, alors ça c'est marrant parce que ça veut dire que donc du coup, t'as un peu plus de croyance en un éventuel Clippers qu'en ces Lakers. Moi, je t'avoue que je les ai mis sur la tablette parce que, allez, on sait jamais, t'as quand même du LeBron et du Luka et du Reeves. Peut-être qu'il y a un chemin sur lequel ça peut faire une demi ou une finale de conf. Mais après, aller plus loin, c'est vrai que ça me semble compliqué. C'est l'alignement absolu de planète.
Truc très con pour les Lakers. Moi, je pense quand même qu'il faut une défense, un minimum convenable pour battre OKC. Ne serait-ce que dans ce sport. Enfin, je veux dire, y a pas... On peut faire de la physique quantique, de la science-fiction et tout. Je suis loin d'être le dernier à faire ça. Mais le minimum syndical de défense que ça demanderait, même dans un monde parallèle d'éliminé Oklahoma, les Lakers, ils ne l'ont pas.
Non, oui, bien sûr.
Je pense qu'ils ne l'ont pas.
Tout à fait.
Tu jettes les dés 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, les Lakers, c'est trop une défense de merde pour Bato Kessi.
Je suis d'accord. Houston, au moment où on a démarré la saison, c'était une équipe qui était considérée comme un éventuel contender. On avait discuté ensemble du pouvoir offensif de cette franchise avec un effectif en pleine santé. Il y a eu beaucoup de blessures. On a perdu Steven Adams. On voit ce qui se passe là à régler avec ces histoires de Bernard Hawkins, de KD et compagnie. Je vois que tu as rajouté un peu Rockets sur le truc.
Un peu, je t'avoue que j'ai...
Mais c'est bizarre. J'ai l'impression, je voulais ton avis là-dessus. J'ai le sentiment pour beaucoup de gens qui suivent la NBA, et je veux bien d'ailleurs l'avis des fans des Rockets, qu'il y a eu le premier soir de la saison NBA où ils ont joué à OKC, match, un des meilleurs matchs de la saison encore. Et que depuis, beaucoup de monde a quitté le wagon. Parce qu'il y a une espèce de méfiance envers l'attaque de cette équipe et le fait que l'ambiance n'est peut-être pas aussi joviale que ce qu'on aurait aimé autour de Alpi, KD, Amen Thompson et compagnie.
Il y a deux choses. Je trouve que ça se voit plus qu'en début de saison, l'absence de Fred VanVleet, de meneur de jeu, de tête pensante.
Fort.
Les équipes ont dû comprendre comment mieux les faire dérailler. Le jeu s'est hyper simplifié d'attaque de Houston, au point où il devient... Je trouve que c'est
dur à regarder les Rockets depuis quelques
honnêtement.
Semaines.
Alors que j'étais plutôt excité, le côté laboratoire, machin, Amen Thompson un peu meneur, Rich Shepard, même éventuellement KD. Là, c'est vraiment portion. C'est du pain sec et de l'eau, quoi. Là,
pourtant, de base, si je montre le classement, ils sont encore. Là, je vous montre le classement à l'heure actuelle, c'est toutes les confondues.
Mais j'avoue, il y a un monde. J'ai été un peu sévère. J'en ai mis que 3 et je voulais parler des Cavs. Il y a un monde.
Parce que les Rockets sont 4e, tu vois, à l'ouest. Mais on est d'accord qu'il y a quand même une méfiance. C'est marrant, c'est à tel point il y a une méfiance, c'est que même toi, tu les as pas mis sur l'ardoise. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à 0% pour toi.
Je dirais plus que si je dois en mettre qu'une des deux, je mets les Clippers. D'équipe de l'Ouest, où il y a entre les deux, tu vois. Je mets pas les Lakers. Moi, j'hésite sur les Rockets, mais je crois que. Parce que j'ai l'impression que. Il y a le. Alors, je sais plus c'était quand, je sais pas. Mais il y a un moment où, dans les milliards d'hot takes, là, parce que je m'en sors plus entre l'apéro hot take avec Alex, les hot takes dans l'émission, dans le week pass et tout. Mais tu vois, il y a cette idée que les Rockets, c'est une équipe de connards et qui vont péter en vol le vestiaire, là. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Et je parle pas uniquement des KD Files et des trucs, Shengun, là, Hidoka et tout. Et je me demande comment cette équipe va répondre dans l'adversité, ce qui est souvent un truc que...
Il y a de la méfiance.
Et moi, c'est même plus de la méfiance. J'ai l'impression de déjà... Je peux pas dire que je le vois, mais ça paraît assez probable, pour pas dire évident, que dans l'adversité, quand ils vont être menés de 20 points, ils ont des trous d'air.
Oui.
Et dans l'attitude, et je vais pas dire qu'ils vont rage quit, tu vois, mais pas loin, quoi.
Et pourtant, sur certains matchs, ils sont capables vraiment d'être impressionnants, et moi je les trouve impressionnants certains soirs, mais je manque de confiance envers cette équipe, et je pense c'est quelque chose qui se répand beaucoup en NBA ces dernières semaines. Beaucoup de franchises et d'observateurs voient les Rockets et se disent: ce n'est pas le monstre qu'on a observé en tout début de saison.
Ça n'a pas pris comme on
l'espérait. Et tu sens qu'il suffit de pas grand-chose pour que la série bascule très très fort en leur défaveur.
Ils sont plus proches, là, à l'heure actuelle, pour moi, de se faire dérouiller.
De rumeurs de transfert en juillet
déjà. Non, et puis que contre Casey, si on imagine qu'en fait, ce soit limite gênant, la série, pour eux. Je trouve qu'ils sont plus proches de ça. Ils sont dans un moment de bascule. Si ça se trouve, tu vois, s'il y a une équipe, on refait le truc dans la science-fiction et qu'en fait, qui redynamise, c'est bien eux.
Oui.
C'est bien eux, je pense, qui ont l'éventail le plus large des possibles, machin. Mais là, à l'heure actuelle, à l'instant IT, comme vous voulez, pour moi, ils sont plus proches d'être gênants contre Casey que de les pousser dans leur dernier retranchement.
Je vois. Boston, si ça te va, on va en parler dans la section suivante, parce que je sais que toi aussi, tu mentionnais là, il va y avoir du Celtics. Juste pour qu'on soit extrêmement clair, parce que là, ça veut dire qu'il y a des franchises qu'on n'a pas mentionnées, mais qui sont hors catégorie.
T'as raison.
Ça veut donc dire merci, au revoir, évidemment, nos amis les Warriors, les Suns, goodbye les Hornets, qui sont chauds, Red Lake Fire, le Magic.
Ouais.
Et donc, quelque part, ça veut dire Toronto ou...
Le monde, genre la 0,00001%. Mais je disais l'équipe de l'Est, le problème c'est que déjà qu'il faut que vous ayez en finale. Oui, s'il y a une équipe. Tu vois, moi j'ai mis les Sixers avant même Toronto.
C'est ça, c'est qu'il y a le sentiment pour beaucoup que Toronto c'est une feel good story de saison régulière.
Ah, le monde où Toronto il va en finale, il est dur. Alors que celui à cause d'Embiid ou grâce à Embiid.
Et de Maxi et de Nick Nurse.
De Nick Nurse, tout ça. George Toronto. Tout. Ouais. Mais oui, s'il fallait encore ce serait Toronto. Et à l'Ouest.
À l'Ouest, est-ce qu'on a oublié non, franchement, à l'Ouest, je te jure que non. Genre les Suns, ils sont extraordinaires, mais les Suns en finale NBA. À ce moment-là, Alex, on a les Kobe, tout le monde sur YouTube.
C'est ça.
On va passer à la catégorie suivante. La catégorie suivante, on est donc, parce que j'ai hâte de parler des Celtics, je sais que certains sont déjà en mode « comment ça ?» et tout, mais on va pouvoir débattre, parce que là, on va rentrer dans la catégorie sur un malentendu. Là, on a, t'as 3 équipes.
Ouais.
J'ai 3 équipes aussi. On va mettre les sur un malentendu. Et là, j'ai hâte d'avoir pareil les réactions un petit peu à chaud, parce que j'en ai 3 et peut-être que ça va commencer à criser. On est sur les 25%. Hein. Sur un malentendu, ça peut faire une espèce de Pacers, quoi, quelque part. Sur un très gros malentendu. Allez, toi, tu nous as mis les Wolves, les Pistons et les Knicks. Et j'ai également les Knicks et les Pistons, mais j'ai mis les Cavs. dans cette catégorie.
Ça veut dire que tu as les Wolves un peu plus tard.
C'est-à-dire que j'ai les Wolves un peu plus tard. Ouais. Ça veut donc dire...
J'hésitais.
Que si je comprends bien, tu as nos amis de Boston bien plus haut que moi.
Ouais.
Très fort, j'ai hâte d'en parler du coup dans la section suivante. On peut juste se mettre d'accord sur donc les deux qu'on a en
commun. Pistons et Knicks.
Pistons et Knicks. New York... On va en parler juste après. Détroit. Moi, j'ai très hâte d'en parler avec toi parce que je sais qu'il y a des fans des Pistons qui disent est-ce qu'on peut avoir du respect.
Alors, toi, ça veut dire que c'était deux équipes de l'Est et que dans l'autre, si je ne suis pas trop con, dans la catégorie suivante, tu n'as plus d'équipe de l'Est.
L'Est, pour moi.
C'est réglé.
Tu sais ce que j'en pense aussi, c'est que ce sont des équipes qui, certes, font des bonnes saisons, mais s'il y a une franchise qui arrive à battre le Thunder à l'Ouest, je pense qu'elle est championne NBA. Il existe un scénario Toronto 2019.
Oui, il n'y a même pas de finale en fait. Donc toi, il
y a une finale, tu vois, engagée, mais je pense que
c'est deux chances que l'OKC n'aille pas en finale qu'OKC perde contre l'Est en finale pour toi.
Ouais.
Alors que c'est là où ça peut différer pour moi.
Je comprends. Je trouve que l'Ouest est extrêmement fort et que les compétiteurs, on va en parler dans la section suivante. Mais alors, du coup, non, Pistons. On va parler des Pistons.
Et c'est ton ordre ?
Et c'est mon ordre.
Donc
c'est
l'équipe Cavs, de l'Est qui a le plus de chances de taper OKC serait les Cavs pour toi.
Alors,
donc on en vient à mon truc, ouais,
à ton truc de classement
en fait.
Pour commencer par les Pistons, parce que toi tu les as mis donc en 5ème position et moi en 6ème. Détroit, peut-être qu'il y a des fans de Détroit qui se disent aujourd'hui, attends, comment ça les frères, on a le meilleur bilan et de l'Est et de la NBA, 40 victoires en 53 matchs. Pour parler un petit peu de ces Pistons, j'ai pris quelques notes évidemment sur la saison. Actuellement, on a la 2ème meilleure défense de NBA, on a la 10ème attaque. Ils vivent un rêve éveillé, les fans, parce qu'il y a encore 3 ans, on était dans la folie. C'est une équipe qui, si je faisais un petit peu les qualités et les défauts, on a en point très fort de la taille, de la défense. Il y a une star et un duo qui arrivent à bien se performer sur les parquets. On a un banc aussi qui est capable de sortir. Et c'est une équipe qui, vu la saison qu'ils font, pourrait avoir le home court advantage. Donc ça, ce sont vraiment les points positifs pour eux que j'ai établis.
Et sans doute sur tous les playoffs de leur conférence.
Sur tous les playoffs de leur conférence. Là où j'ai un peu des interrogations, c'est... Il y a quand même un manque d'expérience par rapport à d'autres franchises NBA.
Bah ouais.
C'est une équipe qui shoot assez mal à 3 points. Ouais. Et j'ai des interrogations sur le playmaking hors Cade Cunningham. Ouais. Parce que quand on arrive en playoff, tu le sais comme moi, tu ne peux pas juste te fier à ton propre système. Il faut être aussi capable de confier la balle à d'autres garçons. Et avec tout l'amour que j'ai pour des Duren, des Jenkins, des Ossar et compagnie.
Ouais, Caris Levert.
Caris Levert et tout. J'ai un petit peu de doute. Qu'est-ce que toi, ton ressenti sur les Pistons, c'est quoi ?
On a le même, sauf que moi, je rajoute un peu de moutarde à ce que tu dis.
Ouais.
Tu vois, une stat toute bête, mais tu sais, c'est la dernière fois qu'ils ont gagné une série de playoffs, les Pistons ?
2008.
C'est-à-dire que, OK, si...
Mais ils étaient pas loin la dernière quand même, les Knicks.
Ouais, mais
les
Knicks
ont eu hyper chaud.
Je sais.
Ouais, mais ils ont eu hyper chaud.
Ça voudrait quand même dire que rien que pour aller en finale, ils gagnent
plus de séries qu'en 20 ans. Oui.
Je veux pas
Après,
être l'oiseau de mauvaise augure,
forte, hein.
Mais les Pistons, ils sont très forts. À l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe de l'Est. Mmh. En saison régulière. Mmh. Je demande encore à voir en playoff. Je pense pas qu'ils vont te choquer dès le premier tour.
Non.
Mais j'ai l'impression qu'à un moment, ce dont on parle là, ça va se voir fort. Et que s'il y a une équipe qui arrive à contrôler Cade, l'arrêter, c'est pas, à mon avis, c'est pas possible.
Non,
physiquement.
Et il va nous montrer sur les playoffs qu'il est très fort.
Aucun problème. Moi, j'ai toujours. J'adore Cade Cunningham depuis la draft. C'était aucun problème. Seulement, si Cade Cunningham tout seul est capable d'emmener et d'être arrêté par personne, je serais quand même surpris qu'à un moment personne n'arrête.
Oui.
Si une équipe contrôle un peu Cade, là j'ai très peur pour les Détroits, à la fois parce qu'il n'y a pas de porteur de balle secondaire capable de faire
de
des différents playoffs, voilà.
Oui, exactement.
J'ai l'impression, ou qu'il l'a déjà prouvé. Alors peut-être qu'ils vont avoir, peut-être que Jenkins va faire entre guillemets une Jalen Brunson, tu sais, aux Mavs.
Oui, bien sûr.
Ok, et tant mieux, et je serais content de me tromper, tu vois.
Bien sûr.
Le coach, c'est, je sais pas. C'est pas le
en tout cas,
plus
c'est
grand génie tactique.
Oui, mais en tout cas, c'est balèze là ce qu'il fait. Même avec
c'est
les
balèze. Mais et il y a ça. Et le dernier truc, c'est qu'on en revient. Mais là, ça va aussi pour les Knicks. Bah, en fait, ils sont à l'aise. Ça sous-entend déjà sortez de votre conf pour que la possibilité d'éliminer. En fait, comment dire, mathématiquement, leur possibilité de croiser Oklahoma et donc de les taper sont plus faibles que celles de que les équipes de l'Ouest. Et en finale, si on prend vraiment le match-up, parce que c'est ça qui arriverait contre OKC, je trouve en plus, c'est pour ça que moi, je veux pas me souvenir, Boston, je les ai un poil différemment. Le basket proposé en attaque, la défense de Pistons est bonne, mais le basket proposé en attaque par les Pistons, pick and roll dans l'axe, vas-y, Duren, Cunningham, on spamme ça, On a notre spacing qui est pas mal. Et
d'ailleurs, ça fonctionne.
Ah, si, sur la défense d'Oklahoma, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment.
Ou des défenses capables aussi à l'Est, même s'il n'y en a pas énormément, mais qui peuvent essayer de dégêner ça. Je suis d'accord.
Ouais, mais là, je disais, je prends vraiment le cas particulier, le match-up contre Oklahoma. Il y a deux réflexions. Il y a globalement jusqu'où tu vas aller en play-off.
Oui, c'est si les trois vont en finale NBA.
Parce que là, la vidéo, c'est quand même les chances de taper Oklahoma.
Oui.
Alors, eux, déjà, ça veut dire faut aller en finale, bien sûr, mais dans le match-up
contre
Oklahoma. Non,
mais ils vivent pas contre OKC. Ils ne vivent pas.
C'est pas l'équipe de l'Est sur laquelle j'ai le plus.
Ouais, je suis d'accord. Tu vois, moi, je les ai mis 6e. Hein.
Bah ouais, on est d'accord là-dessus.
Et je pense qu'ils vont faire un beau parcours de play-off, les Pistons.
Enfin, moi, je les ai 2e, du coup, mais ils sont pas. Oui.
Ouais. Je pense que les Pistons vont faire un beau parcours de play-off parce qu'en effet, home advantage, c'est assez ouvert à l'Est et qu'ils ont une formule qui pour moi peut marcher, c'est que défensivement ça peut tenir en play-off, le banc ça peut tenir en play-off.
C'est pour ça que le côté, on va pas choke dès le premier tour et tout ça, la défense elle est trop forte.
Et leur ténacité et leur défense fait que tu peux tenir sur des séries longues, s'ils doivent faire deux séries en 7 matchs, ils peuvent se retrouver en finale de conférence, je n'ai pas de problème avec ça. Surtout si tu as le home court advantage, qu'ils ont réduit aussi certains problèmes de perte de balles qu'ils avaient beaucoup par le passé. Moi, mon interrogation, comme tu l'as dit, elle est offensive. C'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient vraiment des catch-fire comme Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. qui vraiment prenaient feu à 3 points et qui leur apportaient une puissance offensive certaine. Là, c'est une équipe, j'ai regardé, offensivement, à 3 points cette saison, ils sont... où est-ce que je les ai ? Des 3. Ils sont 21e. Ils shootent à moins de 35% à 3 points. Mmh. Alors, ça peut évidemment basculer. Hein. Mais... C'est cette idée-là. C'est est-ce que ces Pistons vont pouvoir survivre 2 à 3 séries de playoffs où ton lead ball handler, c'est Cade Cunningham, et les options, s'il est un peu étouffé, sont lesquelles ? Ça fait penser, je trouve...
Ah, t'es tout nu si Cade Cunningham il est étouffé. Hein.
Ça me fait penser au tout début de Luka avec les Mavs.
Il y a de ça.
Où en fait, une fois qu'il faisait des trucs extraordinaires, tu sentais que c'était faisable, et puis les Clippers disaient... On va s'y mettre collectivement et tu vas pas pouvoir tenir jusqu'à ce qu'il y ait Kyrie qui soit venu l'aider, où il y avait un second ball handler, ou Brunson en l'occurrence qui s'était bien développé.
Non, on se rejoint. Tu sais quoi, j'aime bien cette équipe des Pistons, mais par rapport à celle de l'an dernier, je dis pas qu'elle, celle de l'an dernier, est plus forte. Ils sont plus forts cette année, ils sont plus solides. Mais comment dire ça, il manque un peu de folie qu'ils avaient presque un poil plus l'an dernier avec les Malik Beasley, Schroeder, etc. Beasley. Là, je trouve ça très solide, mais presque scolaire.
Oui, bah c'est toute la question par rapport au côté système. C'est-à-dire que Détroit est très très fort
très
dans
mécanique.
Ce système, très mécanique.
Avec les bons et les mauvais côtés du côté mécanique de l'horloger suisse. Quoi.
Exactement, en play-off, on sait que ça break down, comme on dit, et qu'il faut des joueurs capables de casser tout type de défense.
Oui, moi je trouve l'an dernier, dans la série contre les Knicks, bon, qu'ils perdent, mais ils sont vraiment pas loin. Bah, tu vois,
il y a eu des Schroeder qui ont fait des.
Il y a eu un peu de folie, et là j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être que.
Tobias et tout.
Tu vois, mais. Ils ont, et dernier truc, ils ont peut-être lâché un peu trop tôt le projet Ivy, surtout pour faire venir genre Kevin Werther, qui va. Je sais pas. Ouais, c'est utile.
Ça peut aider. Ça peut aider surtout dans cet aspect de 3 points. Mais je suis d'accord, en fait, il y a des interrogations. Par contre, ce qui est cool pour les Pistons, c'est que peut-être à la différence des autres équipes qu'on va mentionner là, si les Pistons sortent en demi. Il n'y a pas l'effet de déception totale comme d'autres grosses équipes dont on va parler là qui ont des très très grandes attentes qu'on pourra avoir.
Ça, je suis d'accord. Même si j'ai vu passer d'autres. Est-ce qu'ils auraient dû être un poil plus ambitieux et tenter un truc un peu plus gros à la trade deadline autour de Tobias Harris et... Là, je trouve que c'est pas le moment. Tu finis ta saison, t'es premier de l'Est, tu fais le bilan après les playoffs.
On va parler des Knicks.
Ouais.
Que tu as, comme moi, dans cette catégorie. Donc, déjà, est-ce que vous avez les Knicks dans la catégorie ça va en finale NBA ? Pas de problème, et sur un malentendu, on fait une Raptors 2019. C'est un petit peu ça le chemin qui semble se profiler s'il y a une dinguerie pour les Knicks. Là, au moment où on parle, Simon, ils sont 3e de la conférence Est. Ils ont très bien fini avant le Star Break avec 8 victoires en 10 matchs. Une des équipes les plus difficiles à cerner de cette saison, les Knicks. Il y a des moments NBA Cup où tu te dis, bon, bah, ils sont capables d'eux, et puis il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On a l'impression que limite il y a des problèmes dans le vestiaire. C'est quoi un peu ton ressenti là sur les. Sur les Knicks, je vois que tu mets des flèches.
Parce que j'aurais pu les inverser avec les Pistons, vraiment, jusqu'au dernier
moment.
C'est un peu le même. Eh ben, c'est presque l'antithèse de ces Pistons. Pour moi, ils ont plus de potentiel à faire n'importe quoi. Là où il y a un plancher, il y a une solidité, il y a quelque chose qui me rassure chez Détroit que je vois pas chez les Knicks. Par contre, il y a une folie, il y a un talent, et il y a peut-être même une enflammate que je peux trouver un poil supérieur à Détroit et qui pourrait les amener.
Bien sûr.
Parce que le sous-entendu. Comment dire ? Si les Knicks croisent OKC, ça veut dire qu'en fait, ils ont validé les playoffs, ils sont en finale. Ouais. Et c'est un truc de ouf, en fait.
Ouais.
ils ont gagné, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire qu'il y a eu peut-être un match 7 gagné contre les Pistons, justement, un exploit dans une autre salle, une double prolongation gagnée au Madison et tout. Et il y a une confiance, et il y a Towns qui rayonne, qui est machin. Et là, tu dis, ok, si c'est des Knicks, comment dire ça ? Si c'est des Knicks qui ont validé l'Est et qui ont pris la confiance, je pense même qu'ils peuvent être plus dangereux que Détroit parce que ce serait un truc de ouf, peut-être encore plus que Détroit. Et que du coup, là, tu dis, en imaginant la dynamique, ah ouais, bah ces Knicks-là qui viennent de pas trembler contre les Celtics, éliminer Détroit, je sais pas quoi, enfin je vais pas tout refaire et tout, bah là, ok, si, tu sais quoi, il va falloir se méfier.
Ouais, tout à fait. Knicks, pour donner les faits et les stats, et notamment les points forts et faibles, comme je le mentionnais, au moment où on parle, sur l'ensemble de la saison, 3e meilleure attaque, 11e défense, donc excellente attaque, ça continue. Hein.
Ouais,
c'est une équipe qui est capable
attaque.
D'artiller sans problème, qui peut compter aussi sur ses stars. Hein. Donc même si la saison de 4 est un peu plus compliquée, celle de Brunson est là et il y a d'autres garçons qui contribuent. On est sur une équipe qui a de l'expérience, qui est capable d'artiller à 3 points, qui a du playmaking, c'est-à-dire que même si tu as parfois du Brunson, tu peux aussi compter sur du Kat, sur du Mikal, sur du OG qui peuvent sortir un peu de la boîte, même Josh Hart.
Alvarado maintenant.
Alvarado
ils
aussi.
Ils sont fait un banc là. Là. Ils
tout
sont
à fait.
Du banc.
C'est une équipe qui à la fois peut jouer sur système et sortir de son système.
Ouais.
Qui a montré la dernière en playoff que, oui, la première série elle est compliquée face à Détroit. Mais par contre, derrière, la série contre Boston, ils la gèrent fort.
Ouais.
Et ils ont montré qu'ils sont capables. Là où ils ont des faiblesses, juste pour finir et que tu me donnes un ressenti supplémentaire, c'est que. Chez nos amis les Knicks, tu as pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. 3e attaque, 11e défense. Oui, pardon, je disais.
Non, pas de problème.
Irrégulier parce qu'on a vu les Knicks, ils ont été irréguliers. La santé parfois, les lancers aussi. Et donc, eux, ils ont l'expérience, ils ont le shooting, ils ont la mentalité et ils ont le home court.
Et ils ont la folie, je pense, nécessaire pour dérailler OKC parce qu'OKC. Il y a quand même une rigueur tactique, notamment défensive, de gros travail. Tu le vois, les couvertures, des couvertures, de ne pas rater des rotations et tout. C'est là où une équipe un peu imprévisible, quitte à prendre des risques et à faire un peu n'importe quoi, mais peut faire un peu plus réfléchir aux questions.
Oui.
Et ça, je pense que c'est un gros avantage. C'est ma nuance qui ferait que les Knicks... Tu vois, je suis presque en train de changer d'avis avec... Les Knicks, s'ils vont en finale, c'est peut-être un défi plus gros, si on les imagine avoir... que ne le serait Détroit. Peut-être.
Ça oui, tu ça c'est pour ça que je les mets un tout petit peu au-dessus.
Et je comprends du coup que bah, les Cavs, c'est le... je reviens aux Cavs, mais si ça va bien maintenant, et que ça va bien en playoff, et que ça valide le truc, et qu'Arden en fait il arrête d'abandonner les séries après le match 4, et que nanana, c'est potentiellement, pour... mais vraiment dans la définition de physique quantique du potentiel, c'est potentiellement l'équipe qui a le plus, avec tout ça, de chances d'éliminer OKC.
C'est un petit peu l'idée.
Ouais, okay.
Moi, pour finir sur New York, je pense que même là, ça s'est vu... alors même, ce n'est qu'un All-Star Game, hein, mais je continuerai à avoir du mal à imaginer une équipe dont le line-up principal est le plus fort offensivement à Brunson et Kat sur le terrain défensivement, et tu donnes ça au Thunder en finale, c'est un buffet à volonté. Et je sais, on se prend parfois la tête là-dessus avec mes copains, les fans des Knicks. Kat est fondamental dans la réussite de cette franchise, dans son pouvoir offensif, dans le fait qu'il peut prendre feu et que sur une série de playoffs, il peut te faire gagner 2 à 3 matchs. Il est capable. Si la santé Mitchell Robinson est là, ça fait un beau combo. Mais je serais terrorisé si j'étais fan des Knicks et que je me disais, ok, on est en finale NBA face au Thunder et là, je peux avoir 20 séquences de jeu où il y a une demande de switch de Jan Williams ou Shaggy Alexander où le mec qui défend sur eux c'est Anthony Towns. C'est-à-dire que littéralement sur 20 itérations comme ça, tu vas avoir 18 actions où tu perds. Parce que soit il y a faute, soit il y a lancé, soit il y a rotation, il y a kick out dans le corner. J'ai trop du mal.
Bah, en fait, ils le savent, je pense. C'est leur est-ce qu'ils vont mourir entre guillemets avec ça parce qu'ils peuvent pas se dédouaner du fameux trade et tout. Ou est-ce qu'ils sont proactifs et qu'ils disent bah, les minutes de Brunson et Towns, c'est l'un ou l'autre en config playoff, pas les deux en même temps et pas en fin de match. Et que Towns, on le voit peut-être plus encourager Mitchell Robinson. Ah bah c'est couillu. Mais le risque... Moi je pense que je pars comme je suis. Mais l'adaptation au bout de 2 matchs, si je vois qu'OKC ils sont là en fait, bah non mais c'est barbecue chicken. C'est-à-dire qu'on va créer un côté fort, on va engager Towns sur du pick and roll et en fait il est perdu quoi. Bah j'arrête. Je suis désolé, je vais pas mourir avec mes idées. Je l'aime bien, Carl Anthony Towns, je suis content, mais je trouve autre chose, je sais pas. C'est un vrai problème tactique, mais là où ça me fait un poil moins peur que toi, j'ai l'impression, c'est que bah, il peut se contourner si jamais les Knicks ont la volonté de le contourner. Ils ont l'effectif pour.
Ils ont l'effectif pour.
Et notamment avec Soran qui vient d'arriver, qui peut peut-être permettre des match-up en plus.
Et ils ont des ailiers qui peuvent, avec OG et Mikal, défendre sur les meilleurs extérieurs.
Tu sais que
contre
Oklahoma, à voir, mais parce que toi, tu les obligerais à, entre guillemets, forcer sur Hartenstein, par exemple. Parce que les ailiers sont hyper bien défendus, parce que tu fais un 5 small ball, mais hyper défensif. Soran, Hart, Anunoby, Bridges, McBride ou Alvarado, par exemple, sur certaines séquences.
Par exemple, mais c'est à tenir à ce niveau-là, c'est...
Bah, c'est le star system qui va demander. Est-ce que t'as les... t'as, entre guillemets, est-ce que t'as la place de vraiment coacher cette équipe? C'est-à-dire que parfois, tu regardes Towns droit dans les yeux, voire Brunson, et que tu leur dis, mec, défensivement, on met ma nièce là, c'est moins pire.
Bah, c'est
donc
problème.
En fait, tu vas regarder un peu le match depuis le banc, mais on va trouver des solutions pour te remettre parfois. En plus, les fins de match sont très hachées, donc tu peux même... Ce qui va un peu dans le sens... Ce qui peut aider Mike Brown à ce moment-là, c'est que tu as quasiment, avec les possibilités de temps mort, de trucs, de challenge, de faute, tu peux glisser plein de changements, tu sais, offensif-défensif, comme Pop faisait à un moment, où il avait d'autres côtés. Et du coup, Brunson, il joue les attaques, il sort, enfin, j'en sais rien. Mais par contre, là où je te rejoins, et c'est pour ça que moi, au départ, j'avais les Knicks sous les Pistons, et même, je vais me dévoiler, sous Boston, c'est que si il coache pas et qu'il part 48 minutes, dont 40 de Brunson, ça paraît très compliqué. Je ne veux pas dire, voilà, j'ai pas la sensation, mais ça paraît très, très, très compliqué.
Je veux bien voir ce que pensent les fans des Knicks. Est-ce que, en fait, le chemin, c'est un peu plus Cinderella, c'est-à-dire Raptors 2019 ou là, les Pacers 2025, où en fait, c'est sur un gros alignement de planète qu'ils y arrivent? Ils ont en tout cas les joueurs d'expérience pour y arriver, mais rien que déjà là, pour envoyer maintenant les Knicks en finale NBA safe, je pense que beaucoup de gens sont encore dubitatifs et mettent par exemple, comme tu l'as mis, du Boston devant, ou moi potentiellement du Cleveland.
Potentiellement.
Alors au coude à coude, hein. Mais alors avant de passer à la catégorie suivante, là où on a un désaccord fort, et tu vas le voir à mon avis dans mon classement, c'est que je te propose qu'on parle de Minnesota.
Oui.
Parce qu'il y a peut-être des gens qui mettent Minnesota dans le podium des équipes qui, sur un malentendu, peuvent, ou sur le podium supérieur, c'est-à-dire vraiment ils ont la capacité à battre Casey. Qu'est-ce qui te fait penser, toi, à l'heure actuelle, ou te ressentir que Minnesota ne pourrait pas tenir et se, en fait, revivrait ce qu'ils ont vécu la saison dernière, c'est-à-dire une série de playoffs expéditive face au Thunder, quoi?
Moi, j'ai un problème avec l'équipe de Minnesota comme elle est faite, c'est qu'au moment où le rythme va se ralentir et Casey va contrôler tout ce qu'il contrôle là, grâce à leur intensité et intelligence défensive, bah, le trio Dawson Moody, DiVincenzo, Edwards et tout, au niveau de la main, de poser les systèmes, de réfléchir en temps réel et pas jouer, pas bêtement, c'est pas le mot, mais de pas tomber dans les pièges tendus et d'avoir le coup d'avance sur le coup d'avance sur le coup d'avance, j'ai du mal à le voir. Moi, je suis très sceptique.
Beaucoup de pression, peut-être l'équipe avec le plus de pression là sur.
Et pourquoi moi il y a aussi ce truc là, c'est que, alors j'avoue que je joue avec le, mais Minnesota, comme ils sont à l'ouest, faut déjà qu'ils se fassent pas éliminer par un autre gros monstre avant de croiser OKC, tu vois. Et le fait qu'ils fassent une régulière un peu tiédasse et qu'ils soient pas podium, c'est un énorme problème là pour moi.
Ouais, je comprends.
Pas d'avantage du terrain, non seulement contre OKC, parce que là c'est le focus de la vidéo, mais contre les autres mastodontes.
Oui.
Donc ça me les fait baisser, parce qu'en fait, pour moi, elle n'existe pas, cette série. Ils vont pas les croiser, ils vont se faire sortir avant, j'ai l'impression.
Ah, tu penses?
Bah, ils sont combien tièmes là, Minnesota?
Ils sont sixième, je viens de montrer. Sixième.
Bah, ils jouent Denver au premier tour, pardon, quoi.
Oui.
Là, on est à actuel du jeu. Et s'ils jouent pas Denver, ils vont jouer les Spurs. Tu vois, ou un truc comme
c'est ça,
ma question, s'ils remontent pas.
C'est est-ce que tu mets Minnesota derrière San Antonio aujourd'hui, vraiment à l'aise, quoi?
Bah, moi, ouais.
Ouais. Dans cette optique d'une série face au Thunder.
Alors, et sur les deux aspects de notre vidéo, c'est-à-dire à la fois stricto sensu contre le Thunder, je donne plus de chances aux Spurs de les battre.
Et d'aller chercher le titre.
Et du coup d'aller chercher le titre. Ouais. Et d'être en position de jouer Oklahoma en playoff. Juste ça. Parce que pour moi, notre vidéo, elle est un peu tricky dans le sens où t'estimes à la fois le match-up en tant que tel contre Oklahoma, mais aussi la probabilité qu'il arrive. Et Minnesota, j'ai un peu peur qu'en fait... qu'il soit, parce que c'est une finale de conf du coup normalement 1-3
plutôt,
pourtant c'est, ils en ont fait deux d'affilée là, des finales de conf, mais je trouve que ça s'est renforcé, ça a grandi autour d'eux à l'ouest et tout, et mais je suis critique aussi avec Minnesota parce que ils devraient être, comme toi tu les as classés, sans discussion dans la catégorie, dans le podium des équipes capables de battre Oklahoma. Normalement ils devraient être sans discussion, et moi j'ai envie de leur taper dessus et de les punir et d'être sévère avec eux, parce que je trouve qu'on peut ouvrir la discussion, ça t'es d'accord avec moi, même si tu les as, je pense. Et c'est pas normal en fait, on devrait pas. Minnesota, les Spurs, c'est un cas particulier. Mais Minnesota, en gros, hein, avec Denver, comme tu l'as fait, parce que du coup, on a deviné tes trois équipes, hein, ça devrait être tout de suite,
oui.
Sans discussion qu'une.
Oui.
Et le, rien que le fait que, alors qu'ils sortent justement de deux finales de conf, qu'on en discute, je trouve, parce qu'ils font une salle régulière, qu'ils n'ont pas de vrai meneur, je trouve que ça marche pas tant que ça, des fois. Alors je...
Ils sont très irréguliers. Ouais. Il y a des soirs où, en fait, tu dis, cette équipe peut être championne NBA, et tu regardes le lendemain et tu te dis, bon courage pour le premier tour.
C'est ça. Là où je te rejoins, par contre, c'est que défensivement, ils ont une défense capable
ils ont le...
de contrecarrer pas mal de choses dans le, de ce que fait le Thunder.
Minnesota, pour donner pareil les éléments, 8e attaque, 7e défense.
Ouais,
on parle, hein, donc avec des hauts et des bas, hein, c'est-à-dire que là récemment, par exemple, l'attaque a été meilleure, mais la défense aussi a été moins bonne. Les points d'interrogation que j'ai mis, c'est le coaching. Vraiment toujours autant d'interrogations sur Chris Finch, c'est-à-dire est-ce que c'est un coach qui dit juste ce que les joueurs ont envie d'entendre, ou est-ce qu'il a la poigne justement de pouvoir dire au gars non, c'est pas toi sur le terrain parce que là c'est pas la bonne match-up, et c'est comme ça. Le mental aussi, c'est une équipe qui s'est montrée parfois friable dès qu'on rentre deux ou trois grains de sable dans la machine, hop. Et puis comme d'hab, hein, les lancers et les ballons perdus, Minnesota est d'une gourmandise là-dessus. Ils sont capables de faire des séquences où ils perdent des ballons, mais c'est gratuit, et de laisser des lancers. Je crois que c'est une des pires équipes au lancer cette saison. Je regarde, ils sont 29e. Ils sont à moins de 75% au lancer cette année. Et donc, parfois, Minnesota, t'as juste envie de les envoyer sur la ligne, quoi.
Après, si on joue à ça, tu vois, là, on est dans la catégorie 25%, on est d'accord. Donc, toi, tu les as plus dans les 49-50. Moi, en gros, je les ai à 33. Je les ai clairement leader du pack 25, mais je les ai clairement un ton en dessous des équipes que je mettrais dans le 50%.
Tu n'avais pas eu tous les Cavs. Tu les avais mis dans la catégorie du
dessus. Ouais, j'ai besoin d'en voir plus.
Peut-être que je m'emballe un peu trop sur ces Cavs. Moi, je peux l'entendre. Peut-être que des gens vont me dire, attends, tu craques par rapport aux Knicks et Pistons.
Les Cavs sont donc chez toi non seulement l'équipe de l'Est qui aujourd'hui a le plus de chances de taper Oklahoma.
Moi, je pense que les Cavs, il y a un mois et demi, j'étais en grande difficulté à les voir en finale NBA.
Ouais.
Et là, il y a un chemin.
Ouais, ça, je suis d'accord avec toi.
Il y a un chemin parce qu'en fait, quand je fais par match-up, je me dis déjà, en gros, par rapport à notre vidéo, faut aller jusqu'en finale.
Ouais.
Si tu vas affronter le Thunder, désolé, hein,
par
faire le chemin.
C'est à l'Est. Ouais, c'est...
Et je pense que face aux Pistons, on a parlé par rapport à cette capacité à pouvoir mixer offensivement malgré un énorme verrou des Pistons. Je pense qu'ils sont capables de faire le boulot et aussi de proposer un semblant de défense qui fait que Détroit pourra avoir du mal. Donc sur une série comme ça, si on doit faire confiance notamment aux stars, il y a un peu plus de monde en face. Je crois que face aux Knicks, aujourd'hui, tu mets une série Knicks-Cavs, je serais fasciné.
C'est ça.
Parce que en fait, je pense vraiment que ces Cavs se sont un peu améliorés. Il y a toujours autant de doutes sur est-ce qu'on va revoir certains joueurs comme Max Truss, etc. Quel est le banc? Comment est-ce qu'il va produire et tout? Mais je trouve qu'il y a quelque chose là qui se met en place et qui fait que ces Cavs peuvent vraiment sur. Je les vois capables de faire trois très bonnes séries de suite.
C'est ça qui me. C'est là
et c'est
où...
ça sur lequel tu es sceptique.
Je suis d'accord sur tout avec toi, mais le côté répétition de l'excellence.
Oui.
Ah, mon argument, il est faible. Hein. Mais en gros, au début, moi, le trade d'Harden, je suis pas le plus grand. Voilà, j'ai un peu des doutes. Mais c'est vrai qu'il apporte quand même quelque chose, tout simplement par rapport à Garland. Bah, en fait, il joue.
Il joue, et Garland,
il est blessé tout le temps. Là. Moi, j'adore Garland. On est là-dessus, on est différents. Il joue plus, Garland. Enfin, il est cassé, il est machin. Ça, c'est bien. Et surtout, je parlais d'Harden pour rajouter ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur Keon Ellis. Le développement de même l'ajout de Schroeder, tout ça, il y a un côté meilleure équipe. En dehors de l'arrivée d'Harden, je trouve qu'on se focalise trop là-dessus. Les Cavs ont une meilleure équipe et pas uniquement
à cause d'un joueur
ou grâce à un joueur. Le développement notamment aussi de, j'ai perdu son nom maintenant, Jalen Tyson. Lui, tu sais que c'est limite le mec qui me fait le plus douter parce que j'ai l'impression qu'il aura pas peur en playoff. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il aura pas peur.
Ouais.
Le problème, c'est que j'en connais 2-3 qui auront peur en playoff. Et qui sont toujours en effectif.
Lesquels?
Jared Allen.
Ok.
Lumière.
La lumière est trop brillante. Moi, ce que j'aime.
Mobley. Tu sais que Mobley, alors que je l'adore, je commence à. À un moment, il va falloir montrer plus de choses, Mobley. Hein.
Absolument. Et en fait, peut-être que, encore une fois, je suis trop. Les gens l'ont vu sur la trade deadline, peut-être que je suis trop emballé par ce transfert, mais je trouve que chez ces Cavs, il se passe ce que moi j'aurais fait si j'étais le management. Bon, tu connaissais l'avis que j'avais sur Garland, mais c'était que pour tout le talent qu'a Harden et tout ce qu'il a accompli en carrière, si je dois compter sur lui en leader, franchise player, etc., on connaît la suite. Moi, je trouve que l'ordre, il est formidablement établi là. C'est-à-dire, Spida est le patron. James Harden est un excellent bras droit. Evan Mobley est l'option 3 d'une équipe qui va loin. Tu vois, c'est-à-dire que par rapport à il y a un mois et demi, s'il fallait que j'attende d'Evan Mobley de faire 3 très très grosses séries de All-NBA, First ou Second Team des deux côtés du terrain, j'aurais des doutes. Là, je demande à Mobley d'être une excellente force de dissuasion défensive, ce qu'il est, pour venir aider quand même ses limitations défensives des Cavs. Et donc, je trouve que c'est assez bien aligné cette affaire. C'est-à-dire que chacun retrouve un petit peu plus son rôle.
Ouais.
Après, comme tu le dis, moi je l'avais noté dans les éléments. J'ai mis,
L'effectif est mieux construit, les hiérarchies sont plus claires, c'est plus cohérent. Ça... Chacun est plus à sa place. Ouais.
Sur les line-up, alors Cavs attaque 5e, ouais. Mais bon, c'est difficile à regarder parce que là c'est tout nouveau 12e défense, donc il faut que ce soit mieux. Il y a des grosses interrogations, j'ai mis sur la défense sur les ailes, c'est-à-dire que même s'il y a Jalen Tyson qui est derrière, on ne sait pas ce qui va se passer avec Max Truss. Nouvel équilibre, le banc aussi, à voir comment faire. Et puis en force, je trouve que dans le playmaking, l'expérience de certains est peut-être parfois aussi un côté un peu revanchard, c'est-à-dire que c'est une équipe qui, moi, je continue encore de croire. Qui aurait peut-être pu faire une meilleure série face à ces Pacers s'ils n'avaient pas eu une hécatombe absolue, et peut-être qu'elle n'aura pas lieu là sur ces playoffs.
Ça c'est très vrai. Non mais je suis d'accord, c'est pour ça que moi je les avais entre parenthèses dans le truc des potentialités à... j'ai besoin de voir, oui. Et là t'as été, t'es plus dans le turfu que moi en fait. Moi j'avoue que je suis
peut-être
un peu
trop.
Non mais je suis bloqué par ces Cavs. Là où je te rejoins complètement, c'est que si ça clique et que ça se passe bien,
oui.
D'un coup ils peuvent tac 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 tac, et dans le free flow, moi je les annonce finalistes, tu vois.
Bah c'est peut-être ça dans ça, le science-fiction qu'on fait. Ouais,
c'est-à-dire
qu'entre
maintenant et l'apéro science-fiction, on va, ou les vrais peut-être players.
Peut-être que je fais un peu un pronostic et toi t'es plus.
Non mais c'est l'équipe qui a le plus de potentiel, comment dire, qui a le plafond le plus élevé si jamais ils arrivent à l'atteindre et que tout se passe bien.
Ouais.
Mais justement, quitte à faire ça et avoir transféré Garland, fallait changer l'été dernier.
Ouais,
je fallait avoir plus de temps pour bosser le truc, et c'est là ma retenue, c'est qu'en fait le temps prêt, ça va trop vite là, je trouve.
Oui, je vois.
Faut vraiment que tout se passe super bien, super vite, sans accroc, pour gagner 3 séries de playoffs avant d'affronter Oklahoma. Et j'ai malheureusement l'impression que à un moment, va falloir qu'on réalise les solutions à tout et que. Alors peut-être. Hein. Par contre, les Cavs auraient fait ça, tu vois, en début d'année et auraient eu le temps. Et là, on parlerait de Cavs, deuxième de l'Est,
oui.
Par exemple, avec Harden, ça tourne, il n'y a pas de problème. Mitchell, machin, candidat MVP.
Oui.
Mobley, il est troisième option. Un jour, il met 11 points, comme il fait parfois. Un jour, il met 24, en fait, on s'en bat les steaks. Tyson, candidat MVP. Je serais complètement d'accord avec toi. Moi, le fait que j'ai besoin de voir, il reste peu de temps. Les playoffs, c'est demain, en fait.
C'est après-demain, oui, tout à fait.
Je les ai mis entre parenthèses. J'arrive pas. J'arrive pas encore à juger.
Et juste pour que tu saches pourquoi, pour finir, je vais dans ton sens par rapport à ça, et je me suis permis un petit peu, c'est que par rapport au titre de la vidéo, une série Cavs Thunder, j'ai très très peur pour défensivement ce que le Thunder peut imposer au backcourt d'Oklahoma City, où là, du coup, Cleveland ne peut pas tenir dans une série. Quoi. Mais donc, je les mets dans la catégorie du dessous, mais.
Écoute.
Allez. À boire.
Quel que soit les 5 qui me sont là, il y a un moment où pour Oklahoma c'est facile, c'est genre bah en fait Mitchell on va mettre 2 mecs sur lui, ou enfin voilà.
Oui.
Harden on va gérer un tout petit peu le fait que vas-y prends des step back, mais par contre le cercle t'y vas plus, t'es plus mal. Et du coup ça va être bon bah Evan Mobley et les Keon Ellis et Tyson, allez-y mettez vos 3 points
ouais,
et
ça.
Mobley attaque nous. Ouais, c'est fini.
C'est un peu fini.
La série est finie.
Tout à fait.
Pardon, mais. Ou alors Jason Tylen en fait. Pardon, je l'ai mal.
Jason Tyson, ouais.
C'est une future
série. C'est White.
Voilà.
Et
là, ils ont gagné. Mais tu sais que c'est lui, presque
c'est
à lui seul.
X, hein,
parce que Keon Ellis, je pense qu'on sait à peu près ce que ça va apporter. C'est du Caruso style, c'est de du glue guy et tout. Schroeder, voilà. Si lui, par contre, donc, c'est cet ailier là sur son poteau. Si ça se trouve, il fait des playoffs monstrueux, il amène Cleveland en finale. Ça,
je
d'accord.
Pense.
Ok.
Il y a un scénar. On va devoir rentrer dans le trio de fin.
Ouais.
Alors là, c'est le trio. Attention, à voir qui est le vôtre. Ce sont les 3 équipes qui, selon vous, ont le plus de chances de battre le Thunder.
C'est
et donc,
ça.
De empêcher cette idée de back-to-back dont on a parlé. Et on les met dans l'ordre. Attention.
Yes, alors là, je vais...
Attends. Donc moi, comme tu l'as vu, j'ai mis 3 équipes de l'Est dans le groupe du dessous parce que je pense en effet que ce sont 3 équipes de l'Ouest qui ont le plus de chances de battre le Thunder. Même si tu as des grosses séries longues et qui peuvent emmener à des finale où tout peut se passer, hein. On l'a vu face à Indiana. Et donc, waouh! Ah oui, la fameuse parenthèse, et du coup, je comprends. Allez, on va montrer tout de suite. On est d'accord avec Simon et on a hâte justement d'en discuter. Les Nuggets qui sont en 1, Boston en 2, avec une parenthèse Tatum pour Simon, et les Spurs en 3. J'ai également les Spurs en 3 et les Nuggets, et j'ai mis les Wolves.
Ah, t'as les
en
Wolves
2.
Devant les Spurs. Alors là, tu vois, c'est le choix que je comprends le moins. Alors, j'ai pas toute la vidéo, mais là, sur le moment. Pourquoi t'allez-vous devant les Spurs? Première question.
Alors.
Oui. Pardon, hein, je...
Non, mais je comprends la question parce qu'il y en a plein
c'est
qui vont dire
qui
attends, frérot,
là, comme ça, ouais.
Les Spurs
j'avoue
ont battu le Thunder trois fois.
J'avais été trois équipes. Ah, en oui. Fait, je m'attendais à Nuggets Spurs Wolves. Je vais être honnête.
Bah écoute, pour moi, c'est très simple. Les Spurs, si on prend les quatre matchs qui se sont joués face au Thunder, bon, ils ont montré qu'il y a, il y a une vraie recette pour battre OKC. Mmh. De par le playmaking, de par la défense, de par cette pression qu'ils peuvent imposer, et puis la mentalité, c'est-à-dire que c'est une équipe qui sent qu'elle peut mettre en place quelque chose qui vraiment peut créer des problèmes avec le Thunder. Moi aujourd'hui, les Spurs, évidemment comme beaucoup de fans de San Antonio, c'est une saison extraordinaire qui est en train de se développer. Mais c'est tellement un autre animal les playoffs, ouais, qu'en l'état actuel des choses, de demander à des joueurs aussi jeunes, à un niveau aussi régulier, de prendre autant de bonnes décisions sur des séquences de jeu déterminantes, j'ai du mal. Je souhaite avoir tort, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que le Thunder a joué certains matchs un peu au sérieux face aux Spurs, mais on n'a pas du tout eu la version Thunder des
non, puis ils n'ont pas tout montré. La version ils prenaient les matchs.
Absolument.
Ça, je reste, ouais.
Et donc, moi, aujourd'hui, avec tout ce qui est phénoménal fait par Castle, Wemby, Harper, sans parler de Fox et tout, hein, mais ces trois-là, des joueurs qui ont zéro expérience de playoff, qui ont un talent extraordinaire, mais qui doivent prouver. Tu me les mets aujourd'hui face à des darons qui savent entre la 8e et la 4e minute du 3e quart-temps, qu'il faut faire un push là, qu'il faut rester sérieux et ne pas prendre sa 5e faute ou sa 4e, où il faut rentrer des shoots qui font mal, où il faut faire l'interception qui te casse le crâne. Tu sais, ces trucs qui changent les séries de playoffs. Ce que les Pacers ont très bien fait la semaine dernière. Oui. J'ai des incertitudes.
Ouais, normal.
Je pense qu'on n'est pas prêt pour le niveau physique qui va être imposé. C'est un des trucs que j'ai le plus hâte de voir, je t'avoue, Simon. C'est au-delà des premiers playoffs de Victor Wembanyama, ouais, c'est à quel point ce mec va être capable de répondre à l'intensité physique qui va lui être mise devant.
Et c'est ce qui me fait que je ne les ai pas premiers, quoi, par exemple. Tu vois. Ça, j'ai encore... Il est jeune, il doit quand même protéger aussi son corps sur le long terme. Oui. Il va forcément poser... Les autres, ils vont y aller comme des bourrins. Et alors, Oklahoma, ce n'est pas les derniers à ce jeu-là.
Et ce n'est pas les derniers à ce jeu-là. Et donc, il est tout à fait capable de répondre. Et les gars à côté de lui aussi.
Mais il est capable de se prendre des...
Mais il est capable de se prendre des gros taquets. Ouais. Et aujourd'hui... sur certaines match-ups, bah, j'aurais pu mettre à l'équilibre un peu du Mitch Johnson et du Chris Finch parce que c'est pas Mitch Johnson qui, comme beaucoup de fans des Spurs, me rassure. Alors, bon, pour autant, le bilan est là, hein, donc attention, il y a quand même eu des trucs super.
Je sais pas s'il m'inquiète pas moins que Chris Finch. Mais bon.
Tu vois, il y a des éléments qui font que.
Blanc bonnet, bonnet blanc, quoi.
Et donc, en fait, j'adore mes Spurs. Je trouve qu'ils font une saison extraordinaire.
Oui, c'est fantastique.
Je serais en fait le premier très heureux si déjà, un, ils retournent en playoff, deux, ils sortent en demi. Face à un Nuggets ou un Thunder, tu vois, par exemple, qui a plus d'expérience, qui a montré qu'ils sont capables de faire plus de choses. J'ai une retenue parce que ce soit pour essayer d'atteindre le Thunder, quel que soit le niveau qu'ils vont atteindre, donc en demi ou en finale de conf, ou dans une série face à eux, je pense que ça n'aura rien à voir. Je pense que le Thunder jouera un basket encore meilleur que ce qu'ils ont proposé là.
Ok.
Mais je veux bien entendre tes arguments parce que peut-être que beaucoup de gens vont me dire tu craques. Ils ont montré qu'ils peuvent battre le Thunder.
Non,
quatre
je
fois.
Suis d'accord. De toute façon, on peut déjà on présuppose. Tu vois, c'est un peu du. C'est pas. On sait pas quoi. Et c'est pour ça justement que moi j'ai les Spurs un poil au-dessus des Wolves. Les Wolves.
Oui, j'allais te demander. Voilà. Ils te rassurent plus les Spurs.
Non. C'est ça qui est paradoxal. Ah. Ils ont les Wolves. Je trouve que on sait à peu près un peu plus ce qu'on a et ce qu'on risque d'avoir.
C'est l'aspect folie X-Factor que...
Voilà, c'est pour ça que je mets les Spurs poil au-dessus des Wolves. Les Wolves, j'ai quand même l'impression, tu joues les dés plein de fois. Globalement, ils sont dans le short d'Oklahoma, ils défendent bien Anthony Edwards, hein, mais ils perdent à la fin, 4-2, je sais pas quoi, et c'est le truc qui revient le plus souvent. Les Spurs, tu joues les dés, il y a beaucoup plus de...
là-dessus, je suis d'accord.
De probas de dés où, absolument, en fait, ils se font défoncer parce que Wemby, bah, en fait, les premiers playoffs, je sais pas, il a mal partout. Harper, c'est un rookie... Castle, en fait, les playoffs, il connaît pas, machin, il se chie dessus. Mais par contre, il y a quelques tirages. Mm-hmm. Et du coup, ces quelques tirages sont quand même plus nombreux pour moi que ceux des Wolves.
Ok.
Ou, mais Wemby, c'est un alien de ouf. Stephen Castle, en fait, c'est Scottie Pippen fois Iguodala fois Dwayne Wade.
Oui, Dylan Harper, c'est Harden 2.0.
Et Dylan Harper, il a pas peur. Et en fait, bah, parce que ça existe peut-être. Alors que les Wolves, il y a pas ça. Il y a pas cette probabilité un peu fofolle.
Je vois.
Voilà, et donc, comme elle existe, même si elle est plus faible, bah, je mettrai les Spurs un poil au-dessus. Parce que, comment dire ça encore? En théorie des jeux,
t'as quelques tirages où c'est la folie, les Spurs. Et du coup, même Oklahoma, ils peuvent rien faire parce que l'autre, il est trop fort.
L'autre, et il fait du Will, fois Giannis, fois je sais pas quoi, fois KD. Et les deux premiers matchs, là, et en fait, ils ont pris l'avantage du terrain, ça va vite, voilà.
Oui.
Les Wolves, on est un peu plus dans quelque chose de raisonnable.
Oui, oui, tout à fait. Il y a moins l'aspect, peuvent-ils passer un cap et un niveau supérieur qui leur permettrait de battre le Thunder sur une série.
Ou alors Anthony Edwards, c'est vraiment la réincarnation de Michael Jordan. Mais tu sais quoi, même si Anthony Edwards, c'est la réincarnation de Michael Jordan,
mais je comprends, t'as les doutes sur Randle, Rudy, Chris Finch.
Bien sûr,
c'est les autres.
Et puis la création. Voilà, alors du coup, moi j'ai mis les Spurs en 3 par Bordeaux, où je les mettrais un poil au-dessus des Wolves, mais tu les as aussi en 3.
Je vais venir juste sur les Celtics. Derniers éléments que je donne par rapport aux Spurs, factuellement, les chiffres sont là. 7e attaque, 3e défense. Donc ils sont en train de cocher les cases de top 10 attaque, top 10 défense, qui sont vraiment des éléments qu'on retrouve chez toutes les équipes qui vont loin. Donc là-dessus, si vous y croyez en demi ou finale de conf, c'est tout à fait jouable. Des avantages, on a dit expérience, coaching à de l'interrogation et réussite à 3 points. Les Spurs, je vais vous le montrer cette saison, c'est une équipe qui avait bien démarré avec Mr. 100% et aujourd'hui Santonio, 22e réussite à 3 points. Ils ont un peu ce côté streaky qu'a le Thunder aussi, c'est-à-dire que quand le Thunder shoot bien, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, mais les shooters à Santonio, pour que ça rentre, c'est assez aléatoire. En force par contre, tu l'as dit, folie, mentalité, tu sens que vraiment c'est des gars qui se disent nous, on n'a pas envie d'attendre, en fait. C'est pas parce qu'on est rookie que
on
n'a
pas le temps.
C'est une équipe qui perd très peu de ballons, qui a un bon banc, qui a Don Johnson, Luke Kornet, donc qui peut tenir sur la durée d'une série, et qui a du playmaking. C'est-à-dire que pour battre ce Thunder-là, ils ont montré qu'un des éléments, c'est avoir des joueurs qui sont capables de. Et c'est pour ça
que j'ai mes deux premiers. Que mes deux premiers sont mes deux premiers. Si vous pensez le point le plus important, c'est de l'intelligence de jeu
c'est
et du playmaking.
C'est casser le premier mur défensif.
Et de ne pas paniquer contre la pression qu'ils mettent sur la circulation de balles. Parce qu'Oklahoma, c'est ça, c'est une pression de ouf sur sa circulation de balle qui t'oblige à te tromper dans les passes. Ils défendent, c'est pas le cercle, c'est pas machin, c'est ça. Si ça t'arrive, t'as des joueurs capables d'être plus malins qu'eux à ce jeu-là, t'as un avantage.
Celtics.
Ouais.
Tu les
attends, sur les Spurs,
oui.
C'est vraiment.
Vas-y.
Les Spurs par rapport aux Wolves, c'est tout con, hein, mais moi je punis les Wolves et là tu vas comprendre à cause de la régulière. Les Spurs, s'ils rencontrent le Thunder, objet de notre vidéo, c'est plus tard que les Wolves, normalement.
Mm-hmm.
Ils sont d'autres. Donc ça veut dire qu'ils ont validé des choses, qu'ils ont éliminé Denver par exemple. Mm-hmm. Donc ils viennent avec la conf. Alors c'est ça aussi qui me fait mettre les Spurs un peu au-dessus.
Ouais, je comprends.
Parce qu'il y aurait le vent dans le dos et tout, alors que les Bulls ce serait plutôt dans les playoffs. Bon bref. Les Celtics, et donc les Nuggets sont, mais les Celtics pourquoi? Alors j'ai mis entre parenthèses, je vous le remontre, Tatum.
Oui, le Tatum effect parce que c'est un des plus gros facteurs X là sur la fin de saison à venir, tout à fait.
Sauf que facteur X, je pense qu'il va revenir. Tous les, j'ai l'impression.
Oui, ce que je veux
dire,
c'est dans quel état et à quel niveau de forme. Enfin, tu vois, je dirais.
Les Celtics, je pense que s'ils le font revenir, c'est qu'a priori ça va. Ça a été validé. Là, on dit quand même. Là, il fait du 5-5.
Ouais, ouais.
Et
je pense qu'il va rejouer.
Il joue avec les main machins là. Les
Red Claws.
Ouais. C'est quoi l'obstacle?
Main Red Claws.
Super nom d'équipe. Red Claws, c'est des.
C'est des pinces rouges, c'est des écrevisses.
Voilà. Il joue. Il y a apparemment le prix des places du match contre Philly ou je sais plus quoi, le 1er mars ou le 8 mars. Les deux ont décollé. Il y a des gens qui ont l'air d'en savoir un peu plus que d'autres.
Oui.
Je veux pas, voilà, mais je me suis à une semaine près, si ça se trouve, c'est officiel qui revient. Donc allons-y, jouons le truc. Sans Tatum, je règle le problème tout de suite, mais Celtics seraient relégués à peu près comme toi. Tu les avais où, toi, déjà ton...
Là, ils sont tout en haut, moi, de la section alignement de planète.
Ouais, bon. Avec Tatum, c'est un autre truc, parce que pour moi, d'un coup, en fait, ils prennent l'Est.
Oui.
S'il y a Tatum.
Dans quel état de forme? C'est pour ça que moi, je les mets en alignement de planète.
Ouais.
Et en fait,
contre Oklahoma, ils arrivent dans une équipe qui est là, d'un coup... qui a déjà été championne,
oui.
Qui a l'expérience,
oui.
Qui a le coach,
oui.
Qui a la mentalité,
oui.
Qui a le next man up,
absolument.
Qui a la tradition et qui a l'intelligence de jeu au playmaking et des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que tu as les défenseurs pour emmerder ce que fait Oklahoma,
oui.
Derrick White en particulier, mais pas que lui, Jalen Brown.
Oui, bien sûr. Jordan Walsh et tout. Enfin,
Jordan
y a des mecs
Walsh,
qui sont
j'en oublie un là, avec depuis à l'arrière.
Non, mais c'est surtout Jordan Walsh et Derrick White.
Oui,
qui
les en mission, ça va être eux.
Oui, tu peux avoir Hugo Gonzalez.
Parce que t'as pu Anfernee Simmons. De toute façon, en défense, c'est pas lui sur qui il comptait. Peyton Pritchard, bon, c'est encore autre chose. Mais globalement, ouais, c'est ça. Et du coup, ça, moi, au complet, avec Tatum et des Celtics qui auraient récupéré Tatum, leur savoir-faire, et franchement, ils arriveraient en finaliste. Parce que du coup, contre Oklahoma, c'est le seul moyen possible de les rencontrer. Mm-hmm. Je pense qu'ils arriveraient en finaliste en mode, les yeux dans les yeux, quoi, les gars.
Ok. J'entends. Sur Boston. J'aurais certainement dû les mettre plus haut, mais c'est marrant, l'incertitude que tu as eue par rapport aux Cavs, du fait que c'est encore très nouveau, j'ai vraiment besoin de voir ce que ça donne s'il y a un retour de Tatum. Parce que
bah regarde, si on... regarde les finales de. Tu vois ce que tu trouves? Ah ouais, toi t'as besoin.
Non mais en fait c'est juste.
Non
que...
pardon.
Non non mais en fait ce que ce que je veux se dire c'est j'ai extrêmement hâte comme beaucoup de gens de revoir Jason Tatum sur un terrain. Je pense qu'il faut juste un tout petit peu baisser les attentes. Un déjà pour être formidablement surpris s'il revient très très fort, mais parce que c'est une des plus grosses blessures qui existent dans le sport.
Ouais.
Que réintégrer un joueur dans une mécanique d'une équipe qui est depuis beaucoup de semaines sur un nouveau système de jeu, etc. Je pense pas qu'il y a un problème là-dessus, puisque Mazzulla le connaît bien, Tatum, les joueurs se connaissent, et que s'il y a un joueur qui, selon moi, peut être capable de comprendre comment bien s'intégrer sans reprendre toute la couverture, c'est Tatum avec Mazzulla et Brown à côté. C'est juste que j'ai besoin de le voir.
Ouais.
En fait, le potentiel de ce que j'ai vu avec les Cavs me donne le sentiment que si ces gars-là sont en santé, ils y vont. Les Celtics, je pense que si on voit par exemple Tatum qui revient et que tout va très très bien, je les mets à ta place.
Ouais, on est d'accord.
Mais j'ai besoin de le voir parce qu'il existe aussi un scénario dans lequel on va vraiment y aller doucement. On ne va pas appuyer les deux pieds sur l'accélérateur parce qu'on veut que ce soit un mec qui revienne à 100% là, la saison prochaine. Et que donc... la feel good story, c'est que ça a été une formidable saison de ces Celtics sans lui, que t'es revenu fort et que tu t'es incliné en finale de conf, potentiellement parce qu'il y avait une équipe qui était plus en forme et qui était plus chaude offensivement, même si
les Cavs
sont cliqués,
Détroit qui en fait qui a pas de problème de création, comme
qui
on
ont
dit,
eu 35
ou les
matchs
Knicks,
ensemble,
qui en fait le match-up défensif, hein, ouais, voilà,
qui ont eu 35 matchs ensemble et non pas 18 ou une douzaine, et donc du coup ça se joue à ça. Je suis très curieux. En fait, Boston, quelque part, pour toi, c'est l'équipe qui a le plus de chances d'aller en finale NBA.
À l'Est ?
Ouais.
Ouais, avec Tatum. Et tu sais quoi ? Pour moi, même avec un Tatum qui n'est pas à 100%. C'est-à-dire que je pense
ah ouais ?
Moi, contre Kem, je pense qu'ils nous bluffent là depuis le début. Je pense que Tatum, en fait... Je pense que leur scénario A, c'était on le dévoile pas, mais notre scénario A, c'est ça se passe bien, on tank pas, on met l'équipe en place. Et en fait, Tatum, il revient en mars, là. Et on le sait, et je pense le plan, c'est leur plan en fait, je pense qu'il se passe. Et on va se rendre compte encore que c'est leur plan, que Tatum va revenir, que Tatum va être utilisé en fait au début en doucement, avec parcimonie, en régulière, et que même en playoff, là les Celtics actuellement sont capables, je pense, de passer leur premier tour en faisant jouer Tatum 15 minutes si ça se trouve.
Oui, Steph Curry 2022, sorti de banc,
et ils montent en puissance.
Mais alors j'allais te poser des questions.
Et je crois vraiment que c'est leur plan, hein, ces bâtards.
Tout à fait, et moi j'ai trop hâte de voir ça, mais je te pose la question, et je veux bien l'avis des fans de Boston, là, si on fait match-up par match-up. Quel que soit l'état de santé de Tatum, tu peux faire le scénario où il est pas trop ou très très fort. Demain, il y a une série entre New York et Boston.
Moi, je pense que c'est les Celtics passent.
T'arrives à voir le scepticisme qui existe par rapport à ce qui s'est passé, ne serait-ce que précédemment.
Ouais, après, les deux, tu te rappelles le fait que les deux matchs... C'est quoi, c'est à chaque fois, ils mènent de 20 points. Et ils choquent, les matchs contre les Knicks. Et...
Ah, la pauvre Lucette, les Knicks ont été meilleurs.
Hein. Ouais, mais les Celtics, ils sont un peu regardés jouer avec leur système de 3 points là, et tout. Et je pense qu'entre guillemets, c'est le genre de connerie que tu refais pas deux fois, quoi. Ils s'en sont trop mordus les doigts. Je pense que les Celtics l'ont encore... Alors oui, il y a la blessure de Tatum, mais je pense qu'ils l'ont encore en travers de la gorge leur gestion des deux premiers matchs contre les Knicks. Là.
Celtics Pistons.
Ça, c'est plus chaud déjà, j'ai l'impression. Notamment à cause de la défense de Détroit et le fait qu'il n'y a pas de points faibles. Mazzulla, ce dont on parlait, là, pardon, je reviens sur les Knicks, mais le Bronson Towns, là, si Mike Brown, il réagit pas tout de suite, mais Mazzulla,
il
je veux dire. Genre limite il le regarde, il lui fait t'es con ou quoi, enfin...
Et pourtant il a réussi à un air. Pas Mike Brown, hein, c'était Tibbs, hein, mais c'est une très belle série des Knicks tactiquement face à Boston.
Ouais, en fait l'un n'empêche pas l'autre. Tu as raison, c'est une très belle série tactiquement. Et je trouve quand même qu'ils ont une espèce de chance que les Celtics bombardent à 3 points en mettant pas là, ils changent pas leur plan de jeu. Après, peut-être que je suis trop confiant, mais c'est une formule qui a déjà gagné, moi je trouve.
Ouais, je comprends.
Est sur la potentialité. Les Celtics avec Tatum qui reviendrait donc suffisamment en forme pour être OK d'après les médecins et tout et jouer sans appréhension. Alors je te dis pas qu'il va tomber tout ce qui bouge, mais qu'il joue sans compréhension, sans appréhension. Jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est la meilleure équipe de l'Est.
Je veux bien avoir l'avis des gens sur ça, sur Boston. Oh, ouais. Si les gens mettent comme Simon un peu Boston tout en haut, est-ce que vous les avez dans quel range par rapport à Cleveland, voilà, New York et compagnie?
Mais surtout, pour finir mon raisonnement sur les Celtics, mais je pense que tu me vois venir. Toi, tu faisais les match-up à l'Est pour qu'ils sortent et tout. Et là où je te rejoins, c'est que c'est paradoxal. C'est-à-dire que c'est pas l'équipe qui, selon moi, a le plus de chances de sortir de l'Est. Ça, je suis d'accord.
Mais c'est l'équipe qui face au Thunder.
Par contre, je reviens sur l'intitulé de la vidéo. Tu me mets toutes les équipes de l'Est et face à eux, Oklahoma.
Oui, je suis d'accord.
Les Celtics avec Tatum, pour moi, si ça se passe bien, si Tatum est allé à 60%, on s'en fout des. On va pas faire des chiffres sur des chiffres, mais les Celtics avec Tatum ont plus de chances, ça je l'affirme vraiment sans trembler, pour moi, là en tout cas, que les Knicks, que les Pistons, que les Cavs, que tout ça, de les battre. Je crois. Pour l'expérience, pour le côté, ok, Oklahoma est champion, bah Boston aussi en fait. Le Mazzulla, White,
ouais,
Tatum, Brown, c'est une équipe championne.
Ouais,
Porzingis, Holiday, ok, ils étaient là, ils sont plus là, ça va, ils ont du Vucevic, ils ont d'autres joueurs qui vont pas trembler en playoff, qui vont les aider. C'est ça qui m'a fait mettre les Celtics dans cette dernière catégorie.
Boston, deuxième attaque, extraordinaire cette saison, hein. Neuvième défense, donc comme quoi en plus il y a une défense qui tient bien et qui peut s'améliorer là sur les prochaines semaines. Les intégrations, on l'a dit, c'est Tatum, les lancers évidemment, très très peu de lancers provoqués comme d'hab, hein, du côté de Boston, ils sont 30e, ils provoquent que 18 lancers par match cette saison. C'est l'équipe, on le sait, hein, qui bombarde à 3 points et qui va chercher aussi à l'arceau. Et à voir ce que ça donne évidemment hors du système, donc parfois c'est côté aléatoire à 3 points. Par contre, dans leur force, comme tu l'as dit, hein, XP, coaching, catch fire et turnover, je me permets de le mettre aussi, parce que je crois que c'est l'équipe qui perd le moins de ballons cette saison. Il faudra que je retrouve la stat si j'arrive à dézoomer gentiment. Je ne sais pas si je peux les avoir là. Attendez, ça me prend juste 2 secondes. Turnover, Boston et Oklahoma.
Ah bah tiens.
Ils sont derrière.
Et Denver, on retrouve les vraies bonnes équipes.
On retrouve les vraies bonnes équipes.
Mais tu vois, c'est ça, on parlait de la circulation de balles. Boston a une circulation de balles, je pense, capable de moins transpirer et de moins de faire des cadeaux, tomber dans les pièges, là, dans les griffes d'Oklahoma.
Je suis probablement beaucoup trop optimiste pour mes amis les Wolves, parce que j'ai adoré l'addition d'Ayo Dosunmu, parce qu'ils ont Anthony Edwards qui est en train d'atteindre un niveau... Enfin, je veux dire, il va falloir parler de 3 lettres hein, quand même. Hein, le bilan est pas à la hauteur de ce qu'on pense, mais sur les parquets aujourd'hui, tu le regardes soir après soir, c'est très très chaud.
Oui, je trouve d'ailleurs, pour te rejoindre au MVP de l'année, je le trouve un peu pas étrangement bas, mais je le trouve. On le prend un peu pour acquis, quoi.
Il y a eu le début de saison très de Julius Randle, il a eu des coups de chaud à lui, où il a vraiment été le meilleur, mais c'est compliqué, hein, Minnesota. Demander à quelqu'un de nous donner 2 très bonnes semaines de Minnesota cette saison, tu sais qu'il faut s'accrocher, hein, malheureusement. On est d'accord du coup sur une équipe. Mais je vais ouvrir le débat avec toi, parce que Denver est numéro 1 sur nos 2 tablettes, et avant même que la saison démarre, on a dit, grosso, il y a 2 équipes, c'est Oklahoma City et Denver, et après on essaye de voir. Là, au moment où on parle, Denver, pour donner les chiffres, première attaque de la NBA, 24e défense.
Ouais.
Les problèmes, les blessures, je crois que j'ai regardé, il y a eu plus de 25 majeurs différents cette saison à Denver.
Bah, c'est quand t'as pas Aaron Gordon,
pas Watson, Brown, pas Jokic,
Watson, il fait, enfin bref, il se blesse au mauvais moment, là, quand il se développe. Ouais.
Blessure, défense. Là, on est même pas sur une défense average, c'est-à-dire que vraiment il y a eu des vrais soucis défensifs, mais qui peuvent revenir à l'approche des playoffs, et qui, pour rebond aussi, qui s'est fait beaucoup bouffer, qui n'est pas une très grande protectrice d'arceau. Par contre, dans les points forts, XP, attaque, playmaking, mentalité. Ouais. Et continuité.
Ouais.
Pour toi, pareil, ça reste l'équipe numéro 1, mais cet aspect de blessure, on parle souvent avec Alex et avec toi du fait qu'une saison régulière, c'est trop important, tu peux pas faire on-off en playoff. Denver, tu penses là sur les 30 derniers matchs, ils peuvent faire une espèce de dynamique de montée en température alors qu'ils ont eu autant de blessés?
Alors, non, ça va être compliqué et il n'y a pas de continuité. Par contre, dans l'intitulé de notre vidéo, en fait, Denver, là, si on met le classement. C'est tout con, moi mon raisonnement était comme ça. Je suis parti de 2 choses. Pourquoi je les ai premiers, Bastien, de ce délire de qui peut battre OKC? Parce que déjà l'an dernier, OK, Indiana, mais l'équipe qui était vraiment le plus proche de taper Oklahoma, c'était eux.
Oui, on les a tous les deux. Hein. Oui.
Et le facteur couteau entre la gorge, somme, machin, de l'an dernier, on veut notre revanche. On vous recroise, en fait, d'un coup, on va se mettre à défendre. T'inquiète pas que les stats de saison régulière, c'est quelque chose. Mais qu'en fait, là, dans une série contre Oklahoma, on sait comment vous jouez, en plus, on sait, voilà. Il y a ça. Et surtout, là, vu le, bah, la config, en fait, Denver a quand même, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait cette finale, cette série.
Cette finale de conf. Parce qu'il n'y a pas d'autre scénar, hein, moi, que l'ayez une...
C'est pour ça, c'est qu'en fait, c'est un peu un raisonnement mathématique de ma part, mais c'est mathématiquement, c'est l'équipe avec le potentiel de sortir Oklahoma qui a le plus de chances de la croiser. Donc du coup, mathématiquement, ça les met en vrai, en fait, pour moi, c'est tout. C'est aussi con que ça, mais... Parce qu'il y a des chances que ce soit la finale de conf. Les Spurs sont encore un peu justes, et c'est contre... C'est... Les Spurs, normalement, d'après le tableau, c'est plutôt contre Denver qui vont galérer pour nous et ne pas passer, et en fait, ils croiseront pas Oklahoma. Voilà, bon... Il y a ça, et surtout, quand même, même si All-Star Game, il n'en a pas foutu une, même s'il y a des... Tu sais que s'ils ont un minimum, s'ils sont pas trop en sale forme et qu'Aaron Gordon peut un minimum jouer, avec Jokic, et en plus la saison claque fait mûrer et tout, mais avec Jokic, je trouve quand même qu'ils ont le joueur, s'il faut en prendre un, qui, parce que justement, on en parlait, le problème c'est la circulation de balle, enfin c'est de tomber dans... qu'Oklahoma te rend la... En fait, la circulation de balle avec Denver, dès que tu touches Jokic très haut posto, et ça, ils peuvent pas l'empêcher, la passe à l'entrée pour Jokic. On l'a vu un peu, ils ont mis Caruso, les arbitres ont été sympas, tout ça et tout. Mais globalement, on l'a vu l'an dernier dans la série de playoffs, le jeu va tourner autour de Jokic, et lui, il a des actures, des angles et des trucs qui font que c'est une anomalie. Même ouais. pour la défense d'Oklahoma, c'est pas la même chose à défendre, c'est pas malin. Et d'un coup, ce que c'est faire Oklahoma contre 99% des équipes, et des bacs courtes en fait, voire de quelques ailiers qui s'en mêlent à la création, c'est un autre animal, c'est un autre basket. Denver, c'est beaucoup plus par essence collectif. Et je pense que c'est pour ça que c'est l'équipe qui a le plus de chances de battre Oklahoma.
Je suis d'accord. Sur l'intitulé, on est d'accord. C'est pour ça ouais. qu'on les a en 1.
Ouais.
Quand je regarde ce fameux classement-là dont tu parles, si ça s'arrêtait aujourd'hui,
ouais.
Denver affronterait Minnesota au premier tour des playoffs.
Ce qui peut déjà être une galère.
Puis San Antonio au second tour. Et ouais. moi, là-dessus... On va voir comment ça se passe le classement. Ça se trouve, Minnesota va jumper parce qu'on le sait, Minnesota, ils ont quelque chose à foutre à partir du 1er mars. C'est souvent comme ça. Ils ont un gros run et puis après, ils sont chauds.
Bah, ils hibernent.
Tu me donnes une série Minnesota-Denver là demain.
Ouais. Surtout si Aaron Gordon et Brown et tout ça, ils sont pas à fond. Quoi.
C'est que moi, j'ai besoin de ces... Il y a très très peu de choses que je vais autant surveiller sur les 6 prochaines semaines, Simon, que la situation physique des cadres de Denver.
Okay.
Parce que si ce Denver-là, à 70%, affronte une équipe comme par exemple Minnesota
ouais, bah
au premier tour,
ils sortent quoi. Enfin, ils peuvent sortir.
Il y a un potentiel déconvenu.
Non, mais ouais, là où je te rejoins, je l'ai tweeté deux trois fois. J'ai l'impression que le titre, entre guillemets, ou en tout cas le destin de la saison, se joue à moitié dans la cuisse de Gordon. Je te jure, c'est ça, c'est une simplification à l'extrême, mais tu vois ce que je veux dire.
Il y a ça, et donc du coup, ça me permet de parler d'une dernière franchise. Tu veux te dire, mais attends, de qui on n'a pas parlé?
Parce que les maps disais... de Doncic. Pardon, c'était facile.
C'est de parler des Blazers de Scoot Anderson. Non, non, pas du tout. C'est le Thunder, tout simplement.
Ah oui.
C'est-à-dire
oui.
que je voulais en parler avec toi. C'est que tu dis l'un des facteurs X, c'est notamment ça. Et quelque part, c'est head-to-head avec le poignet de Jalen Williams. Et la cuisse aussi.
Ouais, voilà. Si Jalen Williams, par contre, il joue pas, il est pas à fond dans les playoffs, bah, tu sais que. Les stats là, on s'amusait à 0,1%, tout le monde de 10%. Hein.
C'est ça. Et donc moi, je voulais faire le point avec toi là-dessus pour finir. C'est Thunder, quatrième attaque, première défense. Les interrogations, elles sont sur les blessures. Équipe ouais. qui a eu quasiment autant de blessures que les Clippers, donc ça a été une hécatombe. Qui est assez aléatoire à 3 points, on le sait. Hein, ça peut être très chaud, ça peut être très froid. Il y a des moments où Lou Dort, ça rentre et ça rentre plus du tout. Ou d'autres garçons aussi, c'est compliqué. Au rebond aussi, parfois, ils se font bouffer. Par contre, la défense, on sait qu'elle peut être absolument incroyable. L'XP, ils l'ont. Le banc, ils l'ont. Ils ont même rajouté là notre poteau Jaren McCain, et on sait qu'AJ Mitchell, ça peut bien se passer. Ils ont les stars, ils ont le playmaking, ils ont tout ce qu'il faut. Pour toi, si t'es au Oklahoma City là, c'est donc Denver qui te fait le plus peur, c'est Boston ou c'est San Antonio? Et je veux bien l'avis des fans du Thunder, hein, mais honnêtement, ouais. là, si tu es à aujourd'hui, avec les interrogations qu'il y a sur la santé de tes joueurs.
En fait, c'est t'attends de voir le tableau. Répondre comme ça. Parce que il y a quelques équipes dont tu as un peu plus peur. Il n'y en a pas une, je pense. Mais les Spurs, tu sens quand même qu'il y a un truc. Potentiellement, ils peuvent te bien t'emmerder. Nuggets, les Wolves, quand même, on les a dit. Et en fait, selon le tableau, faudrait pas. Parce que là, et ça changerait limite toute la vidéo. Selon le tableau, si une des équipes se retrouve dans un potentiel deuxième tour, donc demi-finale de conf contre Oklahoma, là, d'un coup, en fait, on pourrait les mettre premiers. Parce que. Il les joue, c'est l'ordre des choses, mais il les jouerait avant. Ouais. Si les Spurs baissent un peu. En fait, c'est si les Spurs ou Denver descendent en 4, en gros.
Oui, là tu les as ennemis.
Et là tu les as ennemis. Oui. D'un coup, pour moi, je change toute la vidéo parce que bah, ça arrive avant une éventuelle finale contre les Celtics et tout. Et franchement, là, Oklahoma, pas cool quoi. Pas cool. Oui. Ou que Minnesota monte un peu, tu vois. Faudrait que Minnesota, en fait.
Minnesota va monter.
Minnesota monte en 4 ou 5.
Et puis vu la forme à Houston et.
Et d'un coup, pour moi, ils rentrent podium. Et si ça veut dire qu'ils jouent bien et qu'en fait, ce que je voyais à la création, bah, c'est pas si grave que ça parce qu'Edwards, il fait des bonnes lectures. Et que Ayo Dosunmu, il est finalement un peu plus utilisé meneur qu'ailier. Enfin, il aide là-dessus, il porte la balle, DiVincenzo. Et que Randle arrête de se prendre pour Magic Johnson, là, à faire une fois c'est bien, une fois c'est une perte de balle de rookie, là. Bah, tu sais que d'un coup, Minnesota, ils peuvent passer potentiellement premier, puisqu'ils joueraient avant, ils joueraient Oklahoma avant les autres. Avant. C'est tout con, hein, ce que je dis. Et ça, ça me ferait peur si je suis Oklahoma. Maintenant. Je pense quand même que là. Je vais presque me contredire. Je pense que t'as pas peur d'équipe globalement. T'as plus peur de certains mecs et je pense quand même que Jokic. Tu dis que si Denver ils ont à cause de la série de playoffs de l'an dernier ou franchement rappelle-toi on a vu des matchs ensemble. Moi c'est le seul moment ils ont pas perdu pied au Oklahoma mais tu sais qu'il y a des moments dans la série où
l'autre il était complètement injouable.
Tu sens qu'ils ont pas la main
et c'est pas le nouvel effectif ou les ajustements qui ont été faits qui vont changer les armes. Hein.
Voilà d'où le Denver numéro 1.
C'est pas AJ Mitchell qui va venir doubler sur lui.
Et le mauvais scénar, c'est celui que je t'ai fait avec bah en fait, le plan des Celtics. C'était qu'évidemment qu'ils savaient que Tatum allait revenir en mars, que ça fait depuis janvier, qu'en fait il est intégré. Parce que moi, ce qui me surprend, ou alors Tatum, c'est vraiment le mec le plus professionnel du monde. On a lu à plusieurs fois, c'est venu de 12 sources différentes. Il voyage avec l'équipe, il se tape les séances vidéo. C'est un joueur des Celtics en fait cette saison. C'est un mec blessé. Oui, la seule différence, c'est qu'il est pas sur le parquet, mais il fait tout le taf de l'ombre que font tous les autres. Oui. On me dit, s'il s'inflige ça, c'est quand même pas pour rien.
Non, c'est sûr.
Et ça, c'est le scénar. Si on en revient, moi, je suis Oklahoma, je me dis, merde, si les Celtics de Tatum, là, ça se passe bien et qu'ils valident l'Est et qu'ils arrivent en forme, sans blesser, contre nous, à l'Est, et qu'en fait, ils ont regardé l'Est comme ça, de haut, parce que c'est le petit bassin par rapport au grand bassin qu'on se tape, nous, à l'Ouest, et qu'on a dû sortir Minnesota. Et en fait, Jalen Williams, il y a laissé de la gomme. Et qu'on a dû sortir Denver. Et qu'en fait, Hartenstein, il est tout rouge là depuis qu'il a donné le meilleur de lui-même contre Jokic. Il s'en est parmi. Il est en hyperventilation et machin. Bah, en fait, les Celtics, ils vont nous niquer.
Je vais peut-être sortir une dinguerie, mais quitte à le faire. Hein. Pour moi, la seule équipe qui doit inquiéter le Thunder, c'est le Thunder.
Ouais. Et la santé de Jalen Williams.
Pour moi, si t'es Oklahoma City, évidemment, tu surveilles ce qui se passe, mais tu l'as très bien dit sur Jokic, Denver, si les gars ils sont à 100%, t'es sur une série de fous et tout. Mais je trouve vraiment que si le Thunder se donne quelques semaines là avec le retour de Shea, on va surveiller la cuisse de J-Dub, et tu te retrouves sur juste les deux dernières semaines sur vraiment une montée en température, gentille, mais certaine. On a fait genre, ouh. Et 2-3 matchs là où ils ont gagné de 40 points parce qu'en fait à la mi-temps c'était déjà réglé. Moi je pense que ça déroule. Et qu'on l'a le back-to-back. Je pense vraiment que là le Thunder, ils ont vécu là une période un petit peu compliquée. Mais qu'elle est compliquée, ils sont premiers à l'ouest quoi. Enfin, tu vois, c'est,
ils ont tellement bien démarré qu'en fait ils restent premiers. C'est quoi, Détroit, ils sont à combien là?
Ils ont le meilleur bilan de NBA, Détroit. Enfin,
ouais, c'est ça.
Ils sont à 40 victoires et 13 défaites.
Mais ils ont deux matchs de moins, non?
Ouais, c'est ça. Ils ont deux victoires demain.
Ouais, donc ça. Écoute, dernier truc, parce que là, on pourrait tourner. C'est assez passionnant. J'espère que ça vous a intéressé comme nous. Je te demanderais bien une question pour finir, Bastien. Poserais bien une question. Oklahoma, ils gagnent ou pas cette année? Tout simplement, oui ou non? Si tu joues au jeu des.
Ah oui, moi, face caméra, je te le dis à toi et je te le dis face caméra. Pour moi, Oklahoma City. Et je l'ai. L'année dernière, tu sais, j'avais dit le Thunder champion. Ouais. Et chez Gus Alexander, MVP.
Ouais.
Avant le début de la saison, j'ai dit le Thunder va faire le doublé. Shea, on va surveiller ce qui se passe, mais pour moi, va faire le back-to-back MVP et on va vivre une nouvelle saison de domination.
Ouais.
La régulière, là, est compliquée, mais je pense vraiment qu'ils peuvent faire le travail en play-off. Même sur les micro-doutes que j'avais, on fait comment si, en fait, AJ Mitchell, là, il devient le troisième meilleur playmaker de cette franchise en play-off?
C'est vrai que le développement interne fait que tu dis que même, peut-être même avec un Jalen Williams convalescent, ils peuvent gagner quand même, quoi.
Le Thunder, tu leur dis aujourd'hui, les gars, vous êtes premier de la conférence Ouest et tu dois affronter Golden State, Portland ou Phoenix au premier tour.
Oui, non. Mais...
Est-ce que tu crois qu'ils ont peur de reposer pendant deux semaines de plus Jalen Williams? Non.
Non, mais par contre, le truc, c'est est-ce qu'ils sont obligés, à un moment où ils le veulent pas,
de faire reposer Jalen Williams.
Et là, il y a une interrogation.
C'est pour ça que.
Mais moi, mes questions, elles viennent en interne. Elles viennent pas de l'extérieur pour OKC.
Je comprends.
Dans la quête d'un back-to-back.
C'est marrant. Moi, je suis.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Non, je pense que la plupart sont plus de ton avis que du mien. Hein. C'est.
Les à cause de la dynamique. En fait, ils partent en mode Bulls 96 et.
Et que là, en ce moment, on n'est plus sur une équipe mid. Donc,
et
moi, je comprends
Jalen Williams. Je suis inquiet.
Mais il y a de l'inquiétude. Pour moi, quand tu parles de Aaron Gordon, sa cuisse, c'est le plus gros facteur X peut-être de la fin de saison. Pour moi, c'est le poignet de la cuisse de Jalen Williams. Et si ça ne se rétablit pas, là, tout est sur la table.
Je te rejoins dans le sens où de ce que j'ai vu, compris, lu sur l'état de Jalen Williams, il y a quand même plus de chances qu'il soit encore emmerdé physiquement en playoff que non, quoi.
Enfin, c'était le deuxième meilleur joueur.
Le fait qu'il soit à 100% et qu'il joue tous les matchs de playoff sans limitation de minutes, sans truc et tout, et qu'il a un bon niveau, ça paraît aujourd'hui presque inconcevable.
Absurde et inconcevable, tout à fait. Et je peux pas m'empêcher de penser que sur les derniers playoffs, il joue 50% des matchs avec une main fracturée. Enfin,
qu'ils l'ont fait jouer sous plein d'infiltrations, il l'a dit lui-même, le sujet est sorti. C'est pour ça que moi, pour finir à la question que je t'ai posée et à laquelle je prendrais des risques et je dirais qu'Oklahoma, on va avoir pas forcément une dinguerie. Mais on va avoir, je pense, un de ces trucs de là ou là. Peut-être les Wolves, que moi, j'ai pas. Peut-être la finale contre les Celtics de Tatum. Peut-être un gros Jokic qui fait du Yoplay, qui en fout partout sur,
tout à fait.
Sur Oklahoma. Ou alors la proba de, je te dis, en fait, Victor, c'est l'alien. Ultime, et c'est... Voilà.
Donc, c'est ça ma question finale pour toi. Parce que c'est celle-là,
Oui, là.
C'est ça ou le field. La dernière question pour moi de cette vidéo, c'est... Flingue sur la tempe. On vous dit que le futur champion, c'est soit Oklahoma City, soit une des 29 autres équipes NBA.
Ah là, j'aurais. Bon, c'est une des 29 autres.
Pour moi, c'est OKC.
Ok. Je pensais que tu allais me dire c'est laquelle dans les. Tu vois
C'est laquelle, toi, c'est Denver. Mais toi, tu penses qu'il y a plus de chances que OKC ne fasse pas le back-to-back et qu'il y ait une équipe qui fasse la surprise.
Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas. Tu sais pourquoi?
Et je comprends, c'est la dynamique. Hein.
C'est
la dynamique.
En fait, pour finir, l'an dernier, début de saison et tout, je me serais dit, il n'y a que Denver capable de les taper. Donc les chances sont quand même faibles finalement. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que Denver qui est capable de les taper.
Je comprends.
Et du coup, ça augmente.
La dynamique fait penser.
Et
ça.
Du coup, pour moi, le 51, tellement il y a d'équipes, enfin, comme il y a plusieurs équipes capables de les taper, 51% de chance, ils ne font pas le back-to-back. 49%, ils font le back-to-back.
Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça, évidemment, fan du Thunder. Est-ce que vous pensez que ça se passe qu'en interne, ces affaires, et sinon de qui vous avez peur? Les autres franchises, on l'a dit, Boston, Minnesota, Denver, New York, Cleveland, San Antonio, tout ce que vous voulez, les Knicks, les Cavs, les Pistons et compagnie, les Lakers, d'autres franchises peut-être qu'on n'aurait pas mentionné, vous nous dites. Et évidemment, on fera un point au moment de l'apéro Playoff Science Fiction.
Avec plaisir.
Pour voir ce que ça va donner. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente reprise sur les parquets dès ce soir. Ça rejoue au basket et ça fait bien plaisir. Le reste de l'actu, évidemment, sera sur votre chaîne YouTube préférée. On vous fait très gros bisous. Merci, mon Simon.
Merci, c'était un plaisir de te retrouver.
Comme d'habitude. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Des bisous, à la prochaine. Ciao.